Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Renard.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Mecton qui nous accueille avec donc le houblon damné de l'autre. le houblon sacrificiel de l'autre premier.
Fallait être là pendant les offs, les gens.
non mais on les passera les offs, on les passera, ne s'inquiétez pas. Et bonsoir Zergy.
Salut.
Zergy est un nouveau micro. Non.
Si, ouais, qui marche peut-être.
Si, il marche très bien. Mais... Il marche mieux que tout à l'heure. Je pense que t'as peut-être fait un réglage. Tu t'es rapproché. T'as fini ta bière alors que tu étais allongé dans ton canapé et tu t'es dit que finalement on avait fait autrement. Bref, ce soir dans le Dojo Bar, nous allons parler de Zelda, hein, pour changer. Ouah, sur 200 épisodes, combien de fois on a parlé de Zelda? À peu près 180. Mais cette fois-ci, on va, with a twist, j'ai envie de dire, on va essayer de définir ce qu'est un Zelda-like. C'est-à-dire que on s'est rendu compte en préparant cette émission que finalement, Zelda c'est un action RPG, mais qu'est-ce qu'il a vraiment pris de la formule action RPG, qu'est-ce qu'il a laissé, et qu'est-ce qui fait qu'il y a certains jeux qui s'inspirent finalement de la formule Zelda plus que de l'action RPG tout court. Voilà, on va essayer de répondre à tout ça. Et puis on donnera aussi quelques petits exemples de Zelda-like, alors soit qui sont à regarder, jeter un petit coup d'œil pour voir, soit des choses qu'on a jouées et qui valent éventuellement le coup d'être fait, si vous aimez Zelda et que vous avez besoin de votre dose. Bref, mais en attendant, on va commencer par le tour de table de l'actualité, et je vais laisser la parole pour commencer à Monsieur Mecton, pour parler de Super Mario Party Jamboree.
Jambon, gris, ouais. Ça va être très rapide. Nouveau Mario Party qui est sorti vendredi ou jeudi dernier, qu'on a pu dépioter rapidement avec des copains ce week-end. Alors, petit disclaimer avant toute chose, nous, les Mario Party, quand on les commence, on n'a pas que du sang qui coule dans les veines. Et avec
le... somme aussi.
Ça, c'est à la fin. Avec la lucidité qu'on avait à ce moment-là, eh bien, écoutez, on l'a trouvé très très bien.
Alors j'en rajoute parce que moi aussi je l'ai essayé avec des amis ce week-end, vous voyez, haha, petit raccord, c'était effectivement très bien. Alors moi je n'avais pas 2 grammes dans le sang, hein. Nous étions même
1,
parfaitement
8, d'après
sobre.
La police.
Oui, non. Bref, nous étions parfaitement sobres et c'était effectivement très bien. J'ai particulièrement apprécié le fait que tu puisses accélérer les animations sur le plateau.
Ah oui, on a vu ça aussi, ouais ça c'est cool.
Parce qu'effectivement c'est les trucs où... C'est rigolo de le voir une fois, mais à partir de la 15e fois dans la partie, bon, ça devient un peu moins intéressant. Pareil, il y a plein de petites choses avec les mini-jeux, il y a plein de catégories de mini-jeux, il y a notamment des mini-jeux qui se servent du capteur de mouvement des Joy-Con et d'autres qui ne s'en servent pas. Donc on peut choisir, on peut dire, bah non, j'ai que des manettes normales, donc je prends pas ça, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est vachement bien, ça permet vraiment d'équilibrer les mini-jeux et d'avoir un peu de diversité en même temps. Et avec plein de mini-jeux inédits, dont des trucs très très cons, et des trucs où tu te grattes un peu la tête avant de te dire « Ouais, mais en fait, ok, c'est comme ça. » Très bien.
Est-ce qu'on a beaucoup aimé, on a beaucoup aimé côté équilibrage, le retour des coéquipiers, mais que tu peux te piquer d'un joueur à l'autre.
Tu peux soudoyer pour qu'ils reviennent dans ton équipe.
Il suffit en fait de doubler un personnage qui a le coéquipier et tu lui voles.
Ah oui, d'accord, c'est pareil. Ça.
Ah oui, d'accord, les rats abandonnent le navire très rapidement.
Hein. Ouais, et non, ce coéquipier, sont... par contre, ils sont tout pétés, hein, quand tu les as, c'est impressionnant. Ah oui, c'est... Mais il ne reste que 3 tours. Enfin voilà, plein de petits équilibrages comme ça, très sympa. Les nouveaux plateaux sont excellents.
Ah, le Mario Kart est très bien.
Le mode Revamp Paradise.
Pas fait.
Ah, pas fait non plus. Ah, peut-être qu'on vous en reparlera un petit peu dans 2 semaines si on a un petit peu avancé là-dessus, mais c'est vrai que. Je pense pas. Un jour, il faudra peut-être qu'on fasse une émission Mario Party. Parce que finalement, il y a 12 épisodes, on n'en a jamais parlé.
12 déjà, putain.
Bah, okay. Ça va aller vite, il y en a 10 qui sont pareils.
C'est un peu ça. Non, il y a quelques petites différences. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire malgré tout, mais je ne sais pas si on a de la matière pour faire une heure d'émission.
On l'appellera les fausses bonnes idées.
Potentiellement, ouais.
Ce sera la dernière émission parce que jouer à Mario Party entre amis, ça finit toujours par un brisage d'amitié.
C'est vrai. C'est vrai, beaucoup plus que plein d'autres.
Oh tiens, et sur celui-là aussi, le mode pro, je sais pas si vous avez essayé ce truc.
Non.
En fait, ça élimine quasiment tout le hasard à part le dé. C'est-à-dire tu sais exactement où vont apparaître les étoiles, quels seront les bonus de fin, et du coup ça devient vachement plus stratégique. Si ah, c'est votre délire, quoi.
Ça peut être intéressant pour les vétérans ou les gens qui effectivement ne supportent pas le fait qu'il y a quand même malheureusement encore beaucoup de hasard dans un Mario Party. Hein, ça. Enfin moi là j'ai fait une partie où... Techniquement, il y a quelqu'un qui m'a volé une étoile, puis ensuite qui est tombé sur un chance time et qui a échangé toutes ses étoiles avec moi.
Ouch.
Et voilà, dans le même tour. Hein.
On parle bien le mode pro, c'est quand tu veux garder tes amis.
C'est ça, il y a tout ça. Vous gardez vos amis, jouez en pro.
Je crois que je suis le seul à apprécier Monopoly. Et pourtant, je suis mauvais joueur.
Ouais, mais tu vois, le Monopoly, c'est non.
Pas ouf, quoi.
Je suis sûr qu'il est de droite.
C'est même possible. Pas, je suis de gauche.
Mon dieu. Je vais passer la parole à monsieur Zergy, qui ne m'avait pas envoyé d'actu, mais à qui je vais coller une actu par défaut, qui est la sortie de l'Analog 3D par Analog.
Alors ça va être très rapide, puisque en fait c'est comme toutes les autres consoles qu'ils ont sorties. C'est une console rétro qui fonctionne avec un processeur programmable, et un petit peu d'émulation je crois. Le but c'est de... En fait c'est très simple, hein, c'est une N64, qui chie du HDMI en 4K et qui est compatible avec tous les jeux.
Voilà, voilà. Et ça voilà. Coûte...
Et comme je suis un gros pigeon, je l'ai prêté.
Oui,
bien
ça,
entendu.
Je confirme que Zergy est un gros pigeon, mais en même temps, ça vaut peut-être le coup. C'était combien le prix déjà?
Alors, attends, 250€, plus 50€ de frais de port, plus la douane, plus les frais de dossier, t'en as pour plus de 300 balles.
Ouais,
et après, t'as pas la manette.
T'as la manette à prendre en plus.
Ah parce que c'est pas compatible avec les manettes d'origine.
Si, mais tu peux éventuellement avoir une manette
oui, c'est une 8-bit
un peu plus modernisée, quoi. Ouais. Mais tu peux brancher tes manettes de N64.
Bref, donc dès que Zergy aura reçu sa petite merveille à 400 balles, croyez-moi, je vais aller tester ça chez lui. Hein. Il n'y a pas de...
Oui, un peu plus de 300, mais alors, c'est quand même moins cher qu'une PS4 Pro et il y a quand même plus de jeux.
Oui, bon, elle était facile celle-là.
Oui, elle était facile, mais c'est pour ça qu'on l'a faite.
Oui, effectivement.
Monsieur Antix,
oui,
avec la chaîne YouTube de Sakurai, l'homme vampire.
Ben, l'homme vampire, en fait, qui a arrêté sa chaîne, la dernière vidéo est sortie hier pour la pause déjeuner. Hop. Et finalement, pas si vampire que ça, parce que en fait, il avait l'air d'avoir vachement vieilli sur sa vidéo de fin. Et il y avait un petit twist à tout ça, qui s'était bien gardé de nous dire jusqu'à présent, le fief et coquin. C'est que sa chaîne YouTube, toutes les vidéos ont été filmées et écrites par lui il y a 2 ans et demi, entre la fin des DLC de Smash Bros. Et le nouveau projet sur lequel il travaille depuis avril 2022.
Ouh.
Donc ça, c'était un peu le truc qu'il a balancé en soum-soum, genre hey, « Eh, en fait, je bosse sur un nouveau jeu !» Je vous ai menti.
Allez, bâtard.
Et du coup, en fait, c'est quoi cette dernière vidéo? Alors, donc ça, c'était pour lui le coup de marquer un petit peu la fin de son aventure sur YouTube. Alors, les vidéos ont été tournées en 2022, mais elles ont été montées, mis en compositing et compagnie par une société tierce durant toute l'année 2023-2024. Donc, il participe, enfin, les uploads étaient faits régulièrement et compagnie, ça c'était sur le temps libre de Sakurai, hein. Il nous expliquait sa journée. Il se lève à 8h, il mange son petit déjeuner, il bosse jusqu'à 6h, et à 20h, bah, il s'occupe de sa chaîne YouTube. Voilà, Sakurai va encore avoir des problèmes de santé normalement.
Normalement oui.
Ah bah oui, on espérait qu'il prenne une pause, et le pauvre vieux, il revient tout de suite au travail.
Oh bah c'est
un japonais, ils savent pas ce que c'est que les vacances. Hein.
Ils en ont pas, ils sont tous là le problème.
Il commence à avoir des vacances maintenant.
Ah, du coup, il a fait sa vidéo, j'arrête YouTube.
C'est un peu ça, sauf que il a dit peut-être que je reviendrai.
Est-ce qu'il s'est excusé pour avoir violé des enfants ou pris de la drogue ou filmé des gens morts?
Non, parce qu'il bosse pas à Ubisoft.
Ah merde.
Merde.
Ou il est pas YouTuber aussi.
Ah voilà, en fait, c'est peut-être ça.
Oui, après, j'ai compris que tu parlais de Logan Paul. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc oui, il a un peu révélé un petit peu les secrets de l'envers du décor de sa chaîne YouTube, comment il s'y est pris et compagnie. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et notamment, on a appris que avec la traduction et faire appel à une société de production qui s'appelle Ike de mémoire, ça lui a coûté la bagatelle de $600,000.
What?
Un gain net de $0.
Ah oui, donc le mec a fait ça pour le...
Il doit avoir quelques royalties qui traînent.
Pour le fun, quoi.
Oui, en gros, il a dit son but, c'est vraiment... Bah moi, ça fait pas mal d'années que je suis dans l'industrie, j'ai de l'expérience, j'ai envie de la partager avec des gens. Et c'est le but de ces vidéos, et le but de les avoir sur une plateforme comme YouTube, c'est qu'elles seront accessibles à tout moment à plein de gens. D'ailleurs, chose amusante, il a partagé aussi un petit peu les stats de la chaîne. Et la version japonaise a été suivie... Enfin, la moyenne des vues de la version japonaise est 3 fois supérieure à celle de la version anglaise, qui est la version internationale. Il y a vraiment eu un gros suivi Japon, un peu moins en Occident, mais ça reste quand même des bons chiffres. Enfin, à l'échelle d'un gars qui parle de game design de manière un petit peu pointue. Et voilà, donc il va encore uploader quelques vidéos de compilation de certains de ses sujets. Parce que c'est rangé par catégorie, avec des vidéos de 3 à 5 minutes. Et si vous n'avez pas forcément le temps de tout taper, je vous conseille une de ses dernières vidéos qui est consacrée à Iwata, où il raconte un petit peu la relation qu'il avait avec l'ancien président de Nintendo. Il parle notamment avec beaucoup d'émotion de sa dernière rencontre avec lui, qui a eu lieu 6 mois à peu près avant la mort d'Iwata. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu la... découvrir ça, mais c'est très très chouette. Après, ça, si vous connaissez un petit peu ce qu'on dit d'Iwata, ça vous surprendra pas plus que ça. Et voilà, le reste de la chaîne intéressante, il parle un peu de tous les jeux où il a été réalisateur, donc tous les Smash Bros, les Kirby, ou les quelques Kirby sur lesquels il a bossé, parce qu'il en a pas fait tant que ça au final. Et voilà, donc c'est la fin d'un super projet qui franchement valait le coup. Si vous avez l'occasion, si vous avez pas suivi, je vous conseille d'aller jeter un oeil.
Ok, et bien je vais terminer ce tour de table de l'actualité avec une petite information piratage en série. Il y a eu une fuite de données massive chez Game Freaks, donc les développeurs de Pokémon, hein, comme vous le savez. Et on a notamment récupéré les codes sources complets de Pokémon Heart Gold and Soul Silver, donc les versions DS, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois,
oui, tout à fait. Oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Ainsi que le code source complet de Noir et Blanc 2.
Aussi sur DS.
Aussi sur DS. Évidemment. Et on a eu grâce à ça la confirmation du nom de code interne de la Switch 2 qui s'appellerait Ounce, comme les onces en anglais. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire.
Alors l'utilisation d'un système métrique impérial, c'est pas bon signe.
C'est ce que je me dis à chaque fois. Mais voilà, donc on a confirmation de 2-3 bricoles, notamment le nom de code interne. Alors on savait que le nom de code interne de la Switch c'était Hachi, qui veut dire 8 en japonais, comme la 8ème console, en tout cas c'est ce qu'on a supposé. Ounce, eh ben on n'a pas vraiment d'explication pour l'instant. Après, il est possible que ce fût mal traduit ou mal interprété, puisque visiblement c'est pas un nom, entre guillemets, occidental qui est choisi, hein, c'est un truc japonais, mais qui se traduit comme ça, donc... Est-ce que c'est juste une prononciation? Est-ce qu'il y a un jeu de mots dans les kanji utilisés pour l'écrire? On n'en sait rien. En attendant, il y a quelques petites choses intéressantes, notamment le fait que apparemment on a retrouvé à l'intérieur de la ROM, alors je sais plus si c'est Heartgold ou Soul Silver, on a retrouvé un émulateur. Alors, je crois que c'est un émulateur CPC avec une ROM à l'intérieur. Enfin bref, on a trouvé des trucs très très bizarres à l'intérieur de tous ces trucs-là qui ont probablement servi de test, des images curieuses, des vraiment une version de développement dans le sens où il restait plein de bordel qui n'était pas vraiment prévu pour être vu par le public, donc y compris des choses qui étaient voilà, très limites. Je vous invite à aller regarder ça si vous avez le temps. Alors ça s'est fait très très vite striker sur Twitter, mais il y a évidemment des gens qui ont archivé tout ça bien gentiment dans un coin, donc si vous cherchez un petit peu, vous le trouverez. Voilà.
Il y a eu d'autres trucs avec ce leak quand même, hein.
Oui.
Parce que c'est... Ah, là, il y a eu les codes sources, mais il y a aussi toutes les données des employés de Game Freeze qui ont fuité.
Oui, mais c'est plus accessoire, j'ai envie de dire.
Bah, c'est très problématique. Et aussi pas mal de documents de travail et de versions bêta de Pokémon. Et là, apparemment, pour le studio, c'est vraiment un problème, parce que en fait, c'est du travail qu'ils pourraient utiliser pour d'autres... pour des jeux en cours qu'ils vont plus utiliser. Parce que maintenant, c'est dans la nature.
Bah comme toute fuite de données en réalité, hein. Il y a le fait d'avoir un backup inattendu de tes données, de tes sources de jeu, ça c'est quand même bien. Alors, je vous rappelle, on ne dit pas une fuite de données, on dit un backup inattendu. C'est important.
Mon Dieu.
Voilà, mais effectivement, il y a d'autres choses qu'on fuitait. Moi, les données des gens de Game Freak, je m'en fous un peu. Hein, c'est pas, il y a les salaires, il y a tout un tas d'autres choses. Honnêtement,
ouais, mais bon. c'est
problématique pour eux. Voilà. Globalement,
en fait, c'est juste que c'est rigolo de se dire ouais, on a des codes sources qui traînent. Le problème, c'est qu'après derrière, il y a des vrais problèmes de données et de développement. C'est Greg dans Sumimasen qu'on parlait, Sumimasen Turbo, qu'on parle pas mal, et en gros, qui était en train de dire, mais en fait, il y a des chances que les développements de Pokémon ça prenne un gros stop dans les années prochaines, parce qu'il y a peut-être des mecs qui vont se barrer de Game Freak à cause de leurs données qu'on fuitait, et à cause des données qui sont aussi dans la nature de bêta et compagnie, ben les mecs ils vont devoir reprendre de zéro.
C'est pas impossible. En tout cas, il y a quelques documents de travail qui ont aussi
fuité. Ça m'étonnerait. Il y a certains de l'industrie qui notent quand même que bah, quand tu fais du travail, tu vas pas l'éliminer, qu'il fuite de données ou pas. Donc,
Ça peut être remodifié, mais c'est vrai que c'est emmerdant si ton brouillon, enfin tu vois, si les idées que t'avais pour Metroid Prime 1 et que finalement t'as pas pu mettre dans le jeu, tu les mets dans Metroid Prime 2, est-ce que si elles fuitent entre deux, est-ce que tu vas vraiment les mettre dans Metroid Prime 2? On est toujours dans le même...
Oui, et puis si elles fuitent, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui va en profiter pour intégrer à son jeu plus vite que toi, tu pourrais le faire et du coup, tu peux aller la vedette, tu vois.
Est-ce que là on se retrouverait pas dans le copyright infringement assez rapidement?
Si c'est pas copyrighté, parce que c'est de la donnée qui était en interne et qui a pas été.
Une fois qu'elle a fuité, pareil, hein, c'est une sauvegarde inattendue, bah là c'est un copyright inattendu.
En vrai, c'est des vraies questions, et bon, déjà Pokémon est un peu en pause cette année, normalement il y a un jeu par an, là il y en a pas. Du coup, merci.
Voilà,
moi j'espère que ça va permettre d'améliorer les développements et compagnie sur la série, hein. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres problèmes avec cette histoire de leak qu'il va y avoir au niveau de la série et,
on verra bien. Au final, le fameux Giga Leak de Nintendo, ça les a pas vraiment arrêtés. Hein. Les données qu'on a récupérées.
Ouais, parce que c'était des vieux jeux. Apparemment, là, dans le leak, tu as aussi le code source dans une version bêta d'un prochain jeu Pokémon.
Oui, tout à fait.
C'est beaucoup plus problématique, du coup.
C'est plus problématique, mais en fait, on a récupéré... Ce que je trouvais intéressant, bah, c'est surtout d'avoir récupéré les codes sources des jeux DS.
Oui, non, clairement. Bah, c'est juste qu'après, il faut préciser qu'il y a d'autres choses derrière...
Mais est-ce que du coup, on a récupéré le code source du Pokébip?
Je ne pense pas.
Le Tamagotchi, voilà. Là,
ce serait dommage.
Oui, le Tamagotchi à la con.
Non. Non, personne n'a envie de récupérer le code source de ça, faut le dire. Les mecs, ils l'ont trouvé, ils l'ont laissé. En fait, c'est ça qui s'est passé.
Apparemment, c'était pas mal, le Pokémon Bip. Bref,
ça suffit.
Oui, c'était un gimmick à la con, soyons clairs.
Et là, pour parler de Zelda.
Bref, oui. Et on va quand même commencer par faire une petite pause musicale avant de parler de Zelda. Qu'est-ce que c'est fort comme transition. Donc, on va écouter un petit morceau de la bande originale de Darksiders 2, qui est The Maker's Overworld. On en reparlera un petit peu après de Darksiders 2. Ça a été composé par un monsieur qui s'appelle Jesper Kidd, et ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et demie. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc, dans cette première partie de... Ouais, ça va être compliqué. La phrase que je vais faire va me faire chier, donc on va faire plus simple. On va parler de Zelda-like, et donc on va essayer de définir qu'est-ce qui fait un Zelda. C'est pas juste un action RPG, il y a quand même quelques petits trucs.
Certains diront que c'est même pas un action RPG.
Certains diront ça, surtout que ça peut se justifier dans certains cas. En revenant sur la série, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de poncifs dont on a parlé, qui en fait ne collent pas à tous les épisodes. Il y a des trucs assez marrants comme ça, notamment sur les deux premiers, il y a plein de choses qui ne collent pas.
Oui, les deux premiers, c'était des expérimentations, et c'est vraiment A Link to the Past qui a défini la formule.
J'ai l'impression qu'effectivement, les deux premiers, tu as pas mal d'expérimentations et que Link to the Past a plus figé les choses. Je suis 100% d'accord, c'est exactement la conclusion à laquelle j'en étais arrivé. Du coup, on va quand même référencer Zelda 1 et Zelda 2 pour certains aspects.
Faut dire déjà, c'est des jeux qui sont sortis à une époque où les genres, c'était pas aussi défini que maintenant.
Genre... Ouais, c'est quand même bien catégorisé.
Un jeu comme Zelda, ça, il y avait pas trop d'équivalent. Ça pouvait ressembler à Dragon Quest, mais les combats étaient en temps réel. Et après, le jeu qui s'en rapprochait le plus, je pense, ça devait être Is de Falcom.
Oui, et encore parce que...
dessus. Et encore, c'est un action RPG, Is.
Ouais, ouais, t'as, effectivement, t'as des niveaux, t'as tout un tas de trucs, c'est pas si évident que ça.
Il y avait pas un jeu vidéo de la pérégrination vers l'ouest qui reprenait un petit peu le concept de Zelda 2?
Si, l'adaptation NES de Dragon Ball.
Pardon, c'est pas ça, monsieur.
Ça me dit rien du tout, mais c'est possible. Sur Famicom, il y a eu plein de trucs hein, avant Zelda aussi. Hein.
Oui, c'était un jeu que le joueur du grenier avait testé, et évidemment, c'était à l'époque où c'était de la merde, donc voilà. Mais bon, c'était à mentionner.
Voilà, donc la première chose qu'on a pour définir un Zelda, c'est la vue du dessus. Hein, ça a l'air d'être con comme ça, mais effectivement...
Alors, quand c'est en 2D, du coup.
Quand c'est en 2D, sauf Zelda 2, qui est pas du tout en vue du dessus. Ok, ça va commencer compliqué. Hein.
Qui n'est pas en vue du dessus, sauf quand tu es dans l'overworld.
Qui n'est pas vraiment un overworld, puisqu'il connecte des morceaux qui sont quand même pas évidents. Non, mais je vous jure, on va bien s'amuser.
Les Zelda 2, c'est un jeu avec des rencontres aléatoires.
En plus.
De plus.
Et des niveaux.
Et des niveaux.
Donc c'est un action RPG.
Ah, bon, discutable.
Ça va être relou,
ça va être relou.
Après, techniquement, les épisodes DS, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, ils reprennent un petit peu le même principe, dans le sens que tu as un overworld qui connecte différents morceaux.
C'est ça. Mais enfin, en gros, on a finalement deux grandes familles de Zelda. Si j'exclus les Zelda Open World, il y a grosso modo les Zelda 2D. On va considérer que Zelda 2 n'est pas vraiment un Zelda 2D. Link's Awakening un peu plus, il y a quelques passages en vue de côté. Mais finalement, ça reste assez anecdotique au regard du reste.
Oui, c'était plus des petits passages, genre « Ah, t'as pris le passage secret, machin, t'as un petit morceau en 2D. »
Alors,
ça.
Je précise, dans Zelda 1, il y en a aussi, des passages de ce genre-là. Bah oui, de temps en temps, tu descends dans un tunnel, et puis en fait, faut remonter une échelle, et c'est vraiment une vue de côté. Mais bon, c'est pareil, ça reste assez anecdotique. Donc, globalement, voilà, en 3D, c'est la caméra, c'est pas une caméra épaule, c'est une caméra derrière le personnage, un petit peu éloignée. Et le reste, on a une vue du dessus. Alors, le deuxième élément que vous m'avez identifié en préparant l'émission, c'était un overworld où il y a les villages, les éléments de quête, les magasins, et ainsi de suite. Et finalement...
Je cherche un contre-exemple pour faire chier.
Il y en a, Zelda 1.
Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de magasin. Enfin,
il n'y a pas de village.
Il n'y a pas de village.
Il y a techniquement des magasins, parce qu'il y a les... it's a secret to everybody.
En fait, il y a des magasins à certains endroits, mais c'est surtout voilà, t'as une carte générale.
Ce que je trouvais important pour moi, c'est surtout que la partie monde soit séparée de la partie donjon. Vraiment, les donjons sont un lieu à part, quoi. Enfin, dans le cas de Zelda 1, littéralement, parce que c'est pas du tout sur la même partie de la RAM de la cartouche. Mais c'était un peu ça l'idée quand on en avait parlé, c'était de dire ton overworld, c'est ton monde principal où tu te déplaces pour aller dans les différents donjons. Et après, il y a des villages selon les épisodes, parce que les épisodes, il n'y en a pas. Pas un épisode, en l'occurrence.
Alors en fait, les épisodes, les villages arrivent à partir de Zelda 2, où t'as vraiment des villages avec des PNJ à qui tu peux parler, à qui tu peux...
Extrêmement bien traduit les PNJ, d'ailleurs.
I am Error. On y a pensé en même temps.
Ah, vous étiez synchro, c'est beau.
Non, mais c'est magnifique. Donc effectivement, t'as cet état d'esprit en fait où finalement l'overworld, il peut éventuellement y avoir des créatures dedans, mais finalement c'est assez limité. T'as des villages dans lesquels généralement il n'y a pas du tout de créatures. Je n'ai pas de contre-exemple en l'occurrence.
Techniquement, dans Twilight Princess, tu as un moment où les hobgoblins ils envahissent le village de Cocorico.
Ouais, mais ça reste assez anecdotique aussi.
Oui, voilà. C'est juste un moment.
Mais effectivement, je suis d'accord avec Antix. L'idée, c'est surtout la séparation entre l'overworld dans lequel finalement, t'as les villages, t'as les éléments de quête, t'as les magasins, t'as le monde à proprement parler. Et quand tu es dans Zelda 1, et c'est un peu l'archétype, c'est finalement t'as une espèce d'underworld, c'est-à-dire tous les donjons sont des souterrains que tu dois explorer, finalement presque comme une espèce de dungeon crawler un peu simplifié. C'est l'image qui me vient le plus, c'est ça. C'est l'objectif dans les donjons de Zelda 1, c'est juste d'arriver jusqu'au boss. Il n'y a pas vraiment de design qui boucle l'autre, il faut finir les salles une par une, et généralement, tu explores les différentes branches où le donjon est parfaitement linéaire, et tu arrives au boss, et tu lui fous sur la gueule, et tu récupères un morceau de Triforce, et puis c'est réglé, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, on a littéralement un monde du dessus et un monde du dessous. Ce qui me fait d'ailleurs penser que dans Tears of the Kingdom, le monde du dessous, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait dans Zelda 1 en réalité.
Oui.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'en fait, tu débarques dans Zelda 1, tous les donjons sont des souterrains. C'est vraiment systématiquement une cave qui est
c'est vrai.
Une exploration. Et là, tu as une espèce de cave géante qui relie tout le monde du dessous.
Mais dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul vrai donjon Zelda dans Tears of the Kingdom. C'est celui avec le golem à la con, là.
Non, il y a les Gorons.
Pour eux, ah oui, ça, aussi les Gorons. Aussi les Gorons, c'est vrai.
Ouais, il y a un petit peu les Gorons. Bref, donc, on a aussi des éléments de RPG, mais très 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 légers.
Ouais, enfin, ce qu'on constate, avec, en tout cas dans la série Zelda, et dans ses variantes, c'est que finalement, t'as pas vraiment de notion de level up. Sens traditionnel, tu tues des ennemis, tu gagnes de l'XP, tu montes de niveau, t'as de meilleures caractéristiques. Alors, il y a des petites exceptions, évidemment.
Tu peux faire agrandir ta barre de magie, tu peux agrandir ton nombre de cœurs, hein, tout ça c'est des classiques, mais finalement,
oui, mais, tu vois, les
à part
cœurs,
ça, il n'y a pas grand-chose.
Tu vas les faire monter en trouvant des objets dans le monde, et pas en juste en poutrant des ennemis. En fait, tuer des ennemis, c'est pas obligatoire, sauf quand t'es obligé pour passer à une salle. Et globalement, il n'y a pas de gain à tuer un ennemi. En tout cas, dans un Zelda.
Oui, finalement, tu peux tuer des ennemis en boucle pendant des heures. La seule chose que ça va faire, c'est te rapporter des cœurs, mais que tu auras perdu en les combattant. Te rapporter éventuellement des rubis, mais c'est à peu près tout. Il y a guère que dans, je crois que c'est Twilight Princess, où il y avait un donjon spécial où t'avais justement que des combats.
La cave de Lord Ali. Mais elle y est aussi dans Wind Waker.
Ah, je savais pas qu'elle était dans Wind Waker.
Même dans un des DLC de...
Bah de...
Breath of the Wild, c'est juste un enchaînement de combats, mais c'est pas... Ces trucs-là, c'est des éléments annexes, en fait. Ou alors t'es pas obligé de les finir jusqu'au bout pour faire avancer la quête.
Voilà. D'ailleurs, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, t'as techniquement une insensitive dans le sens que tu peux récupérer les armes de tes ennemis pour ensuite leur poutrer la gueule avec.
Oui, mais tu vas pas te battre contre des mecs... Tu vas pas grinder pour avoir des niveaux, quoi. C'est un
non.
concept qui n'existe pas. Tu vas éventuellement vouloir récupérer une certaine arme, pourquoi pas, mais...
Voilà, ou alors t'éclater à tuer ton 20e linel de la journée parce que ça t'éclate.
Ouais.
Ça allait durer ta journée. Hein.
Désolé, écoute, moi j'aime bien leur éclater la gueule, c'est tout.
tu sens la rage en plus dans les peaux. J'aime bien leur éclater leur petite face de merde.
Leur petite face de chat, là.
C'est ça, elle a défoncé sa gueule.
Bah, le premier, j'ai couru comme un petit couard, et donc bah maintenant j'ai envie de leur prouver. Oui, je peux vous casser la gueule. Je peux même vous casser la gueule avec des armes de merde.
Putain, le mec est à fond.
C'est dans le premier Rambo, quoi. Le mec, il est là, genre, c'est pas ma guerre, mon colonel, mais je vais quand même leur péter la gueule.
Non, mais le truc intéressant, Exactement. C'est que c'est toi, joueur, qui a pris l'XP, quoi.
Oui,
finalement, oui.
Ah, c'est comme ça que ça marche dans Breath of the Wild, en tout cas.
Oui, dans Breath of the Wild, c'est vraiment... Il y avait un reviewer YouTube... Il y avait un reviewer qui disait qu'il n'y avait pas de mode God dans Breath of the Wild. Et moi, je suis franchement en désaccord parce que dans Breath of the Wild, une fois que tu as vachement maîtrisé le jeu, tu es intouchable. Tu peux tout défoncer.
Je suis assez d'accord. Bref, pour revenir au truc...
On parlait d'évolution de personnage.
Voilà. Alors, t'as quand même de l'évolution d'équipement de temps en temps.
Ouais, en fait, ton évolution...
C'est assez rare.
Ton évolution de personnage, ça va être des capacités. Un peu comme dans un Metroidvania, où tu vas récupérer tu vas récupérer les armes traditionnelles, l'arc pour attaquer à distance, les bombes pour exploser des murs, des tenues spécifiques, survivre en milieu chaleureux, par exemple... non, vraiment, Zelda et Metroid, des fois la différence c'est juste le plan sur lequel ça se passe. Hein.
Je me permets de rappeler que Super Mario Bros, The Legend of Zelda et Metroid sont sortis je crois qu'il y a 20 mois entre les trois jeux.
Ouais, il n'y a pas énormément d'écart.
Donc, tout ça, certains avaient dit, et je crois que c'est Oscar Le Maire lui-même dans son bouquin sur Zelda qui disait finalement. La différence entre Mario Bros, Zelda et Metroid est beaucoup plus fine que ce qu'on imagine. Parce qu'en réalité, à chaque fois, c'est prendre un concept et voir jusqu'où on le pousse pour voir dans quel sens ça fonctionne. Donc on a fait de la plateforme d'un côté, on fait du jeu du dessus avec de l'aventure, et si on arrivait à mélanger les deux.
Et en fait, et ça quand a tu regardes fonctionné un peu, dans les trois.
Ça a fonctionné dans les trois cas parce que t'avais des gens assez doués, mais c'est une équipe de, oui, une dizaine de personnes qui, à elles seules, ont fait...
Ce qui est marrant, c'est que
3 ou 4 jeux comme ça.
Pour le coup, Metroid n'a pas été fait par la même équipe que ceux qu'ont fait Zelda et Mario.
Ah oui, effectivement.
Oui,
il
devait
y avoir quand même Tonton Miyamoto derrière, je pense.
Bah, pour Metroid, oui, non, évidemment. Pas vraiment.
Ah merde!
Non, pour le coup, c'est
Yokoi, il y a Metroid. Différente.
C'est okay. Alors j'ai plus les noms en tête, mais c'est pas les mêmes équipes.
Bon, les mecs ils prenaient le café ensemble quand même, quoi.
Oui, non, mais ils se voyaient chez Nintendo, mais celui avant Iwata, j'ai plus son nom en tête.
Yamauchi,
son truc lui c'était de mettre ses équipes en concurrence. Donc il se voyait à la pause café, mais c'était possible aussi qu'il y ait le mec au-dessus qui décide d'entretenir un peu leur rivalité, tu vois.
Oh là là, l'équipe Metroid, ils ont fait un truc tellement bien ces derniers temps, vous devriez vous en inspirer.
Ah, y a des histoires à l'époque de Super Metroid avec le Crunch, je vais divaguer complètement.
C'est pas grave, allons-y.
Donc le Super Metroid, c'est le pire Crunch de l'histoire de Nintendo, en tout cas le pire Crunch connu. Et il racontait, les mecs de l'équipe développement, qu'en fait ils restaient plusieurs soirs de suite au bureau, et que les gens des autres équipes de Nintendo, des fois arrivaient le matin, les regardaient avec du mépris tellement ils avaient l'air pas lavés, ils avaient l'air dans un état lamentable. Enfin vraiment, c'était pas une époque facile pour eux.
Est-ce que c'était pire que le développement de Majora's Mask?
Comme je dis encore une fois, de mémoire du personnel Nintendo, Super Metroid était le pire crunch de l'histoire, chez eux.
Eh ben punaise.
Majora's, ça devait pas être triste.
Je pense que Majora's devait pas être triste. Je rappelle, il a été fait en un an. Un petit peu plus d'un an, donc ça a dû quand même...
Oui.
Beaucoup de réutilisation d'assets, mais bref. Ce n'est pas le sujet.
Oui, beaucoup. Bref. Élément suivant. Finalement, des combats plutôt anecdotique. J'entends Zelda 1, Zelda 3, en dehors de quelques spécificités type tel ennemi il faut des flèches, tel ennemi il faut un boomerang parce qu'il se cache derrière son bouclier, et ainsi de suite, les combats sont pas hyper développés. Il y a des jeux qui ont des combats bien plus prenants. Il y a quelques Zelda-là, et qu'on en parlera après, qui ont des combats bien plus prenants que les Zelda finalement tels qu'on les a aujourd'hui. Je pense surtout au premier. C'est vrai qu'à partir de Ocarina of Time, il y a eu une phase où on a commencer à essayer de nous faire croire qu'il allait y avoir des combats intéressants.
Alors, je pense que c'est attendre que l'ennemi lève son bouclier.
Voilà, je pense à Wind Waker, tu vois, avec les Dark Knight, où t'étais obligé d'attendre le bon moment, d'appuyer sur le bon bouton, de passer derrière et tout ça, mais finalement, ça reste assez anecdotique. À mon sens, le seul jeu où les combats ont commencé à prendre une dimension un petit peu intéressante, je vais peut-être vous surprendre, c'est Zelda 2. Parce qu'en fait, avec la vue 2D, tu as une garde haute, une garde basse, parce que ton bouclier, si tu ne frappes pas, ton bouclier est en haut, si tu te baisses, ton bouclier est en bas, et en fait,
c'est Street Fighter 2, quoi.
Ben ouais, en vrai,
avant
c'est
Street
ça,
Fighter 2.
En vrai, c'est ça. Tu dois vraiment esquiver les bons projectiles et les bons coups d'épée, et les ennemis n'hésitent pas à mettre des coups d'épée en haut, des coups d'épée en bas, quoi. Il y a vraiment un rythme là-dessus. T'as des ennemis qui ne sont sensibles que sur la tête, que sur le torse, que sur les pieds. Donc j'ai l'impression que c'est là où les mecs ont commencé à se dire, tiens, on pourrait peut-être faire un système de combat un peu plus intéressant que juste taper. Puis ça s'est perdu, puis c'est revenu avec Wind Waker, un petit peu plus avec Twilight Princess, puis finalement...
Skyward Sword, ouais.
Quelque peu.
Mais qui a pu se permettre parce qu'il y avait la Wiimote.
Qui a pu se permettre de... Mais du coup, qui avait des combats plus lents, puisque bah, forcément, t'es obligé de prendre un peu plus ton temps pour aller donner les coups d'épée dans le bon sens. Bref.
Après, ceci dit, les combats de Zelda, que ce soit 2D ou 3D, et surtout 3D... ça reste pour Ocarina of Time en tout cas des standards de l'industrie, dans le sens où Ocarina of Time a amené tellement de choses dans le fait de combattre en 3D, notamment ce système de lock qui va du coup forcer les ennemis qui ne sont pas lockés à être moins actifs. C'est des trucs qui sont utilisés plus tard hein, dans Assassin's Creed par exemple, quand t'es en duel avec quelqu'un, les mecs autour ils te regardent à côté. On a beaucoup plaisanté là-dessus, mais en fait c'est vraiment des petites astuces de game design pour te permettre de gérer ton combat, quoi.
Oui, puis ce serait ingérable en réalité si tout le monde t'attaquait en même temps, tu créerais tout de suite, il y aurait zéro fun, quoi.
Et du coup pour les...
À moins que ton personnage soit pété.
Oui, bah, mais...
En fait tout est une question d'astuce. Mais du coup, les Zelda 2D, la façon dont tu te déplaces et tu te bats un peu dans les Zelda 2D, bah, c'est des choses qu'on trouve sur beaucoup de jeux d'action vus du dessus. Bah, notamment tous les actions RPG, en fait, se jouent quasiment pareil que Zelda, en fait, quand tu regardes bien.
Mais du coup, ça reste... Enfin voilà, les combats sont pas très intéressants. Il y a d'autres jeux dans lesquels c'est plus intéressant. Je pense notamment à Darksiders.
Bah, c'est pas un jeu qui est centré sur ces combats, hein, de manière générale.
Complètement. À part les combats de boss, étonnamment.
Bah, puisque ce sont des puzzles, en fait.
Pas tous,
mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Ça pouvait être très bon.
Oui, c'est vrai. Je pense à... le fameux boss de Skyward Sword, là, le truc à le Shiva, là, le machin qui a 50 épées.
Ah, le bouddha.
Ouais.
Qui était très marrant. Comme, effectivement, une espèce de boss un peu énigme qui marche plutôt pas mal, je trouve.
Parce qu'après, Link to the Past, c'était très bourrin aussi de mémoire.
Ouais, t'avais souvent tendance. Bah, de temps en temps, tu avais.
Très généralement, les Zelda 2D, ils sont plus bourrins, je trouve, par rapport aux Zelda 3D.
Ils sont bourrins dans le sens où c'est pas une énigme, c'est. Tu dois
voilà.
Juste te placer au bon endroit pour mettre tes coups, quoi.
T'as pas choper de... le pattern, ou tu dois utiliser l'objet au bon moment.
Voilà, donc Mecton, tu peux y aller.
Voilà. Si l'objet que vous trouvez dans un donjon est un décapsuleur, le boss sera une bière.
Voilà, c'est imparable, hein. Effectivement, t'as beaucoup de boss. On viendra sur les donjons un petit peu après, mais t'as beaucoup de boss qui effectivement peuvent se latter sans l'objet du donjon, mais c'est trois fois plus compliqué, quoi.
Yeah.
On a une quête principale qui est généralement extrêmement simpliste. Alors là, on trouve un élément qui est dans certains action RPG, pas tous, dans lequel finalement c'est réunir X éléments du pouvoir. Parfois en deux morceaux de quête, hein, je pense à Ocarina of Time, où il faut réunir les trois pierres, machin, puis ensuite il faut réunir les six médaillons.
Bah, des Link to the Past, en fait. Hein.
Et des Link to the Past, effectivement, et des Zelda, hein, parce que finalement, il fallait récupérer les 8 morceaux de la Triforce. Voilà, problème solved. Et c'est à peu près systématiquement comme ça, hein. C'est vraiment à chaque fois, finalement, t'as une espèce d'intro qui est plus ou moins longue, dans laquelle on finit par te filer une quête qui est pas forcément la quête principale du jeu, pas forcément la dernière quête, mais qui est généralement faut collecter ces trois trucs, puis ensuite une fois que t'as collecté ces trois trucs, finalement faut aller collecter ces 8 trucs là. Bon, ok.
Ouais, généralement c'est soit tu as 3 objets puis tu as 6 autres, ou tu as 4 objets. Enfin.
Ah. Oui. Ah, t'as décelé un pattern comme ça, toi. Attends.
Incroyable.
C'est pas une règle qui est complètement dure, mais très généralement c'est comme ça. Par exemple, A Link to the Past, A Link Between Worlds et Ocarina of Time, c'est 3 objets plus 6 autres. Majora's Mask et
c'est 4 objets.
Majora's Mask, c'est juste 4.
Voilà, c'est 4 objets, c'est 4 géants, oui. Et Minish Cap aussi, c'est 4 objets.
Ah putain, ok. Très bien. Voilà. Effectivement, il y a peut-être un vrai truc.
Après, Link's Awakening, c'est 8. Zelda 1, c'est 8 aussi.
Voilà.
Donc, c'est pas une règle générale.
Il n'y a pas vraiment de règle. Je pense que c'est surtout des histoires.
Non, mais c'est intéressant de se dire qu'il
y a des patterns.
C'est des histoires de contrats de production, je pense.
C'est voilà. Possible. Bref.
Mais du coup, en fait, ce côté un peu aller chercher des objets et rassembler, c'est des trucs assez classiques d'Heroic Fantasy. Hein. C'est j'allais penser à la quête de l'anneau, mais c'est un petit peu ce genre de truc, un but simple pour te permettre d'avancer facilement, et après on fait un petit twist au milieu.
Voilà, le MacGuffin.
C'est vraiment le genre de gimmick que tu verrais dans un scénario de Donjons et Dragons assez simple, quoi.
C'est ça. Ça ressemble effectivement à ça, c'est-à-dire quand tu regardes le scénario dans un Zelda, je dis pas que c'est forcément mauvais, hein. Pourquoi pas, mais finalement avant un Breath of the Wild par exemple, le scénario c'est surtout quelques dialogues entre les personnages qui sont potentiellement intéressants, quelques personnalités qui sont intéressantes, mais finalement l'histoire elle-même, le scénario lui-même à proprement parler, pas extraordinaire. La narration peut être intéressante, il y a des
les
éléments narratifs qui sont
aussi.
Parfois les thématiques aussi, effectivement le voilà. Monde est généralement intéressant. Mais c'est rarement l'histoire elle-même qui va te tenir. Effectivement, Majora's Mask, c'est quoi l'objectif ? C'est finalement sauver les quatre...
Le monde de la lune qui tombe.
Oui. Non mais oui, d'accord.
Voilà,
ça,
c'est un jour sans fin, version apocalyptique.
Non mais c'est surtout que la quête principale, c'est quand même juste réunir quatre géants pour sauver... Enfin, réunir récupérer le MacGuffin des quatre mondes qui sont autour du monde principal pour le sauver. Point.
Ouais, voilà. Généralement, Zelda, je trouve que ça se démarque plus par... pas par une complexité d'histoire d'un JRPG, mais plus par des petites idées d'ambiance ou des petits gimmicks qui, en plus, sont liés au gameplay. Parfois pas, hein. Moi, la fin de Link's Awakening, ça reste un crève-cœur absolu des années après. Ça n'a aucun rapport avec le gameplay, mais waouh, qu'est-ce que c'est bien amené et qu'est-ce que ça me fait baisser ma larme à chaque fois que j'entends la balade du poisson rêve, quoi. Et je trouve que c'est plus des petites touches assez efficaces que des gros concepts... Quand ils essaient de faire des gros concepts, un peu à la Twilight Princess ou Skyward Sword, je trouve que ça marche moins bien.
Ouais, je suis d'accord. Twilight Princess, point de vue scénario, ils ont essayé de faire un truc et en fait, finalement, j'ai même presque l'impression dans Twilight Princess qu'ils ont un peu abandonné au milieu. Alors finalement,
ouais,
tu sens.
Il y a des trucs qui disparaissent, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est ça. Tu sens... Au départ, tu sens qu'il y a une volonté de. Ouais, on va raconter une histoire dark, alors il y a deux mondes et puis il y a un géant qui mange le monde et machin. Puis à un moment, il fait. Ouais, vas-y, on s'en fout, viens, on récupère 5 éléments et puis on finit.
Attendez, mettez la musique triste au piano pendant que Pinal est pas bien.
C'est presque ça.
Non, en vrai, j'adore ce passage. Je charrie, mais.
Non, mais il y a des passages très bien. Je dis pas que c'est mauvais en soi. Juste, tu sens que il y avait une ambition à essayer de faire quelque chose, un grand scénario justement un peu fouillé, et qu'à un moment, bon.
Vous voyez que c'était le Seigneur des Anneaux qui était passé par là. Ils se sont dit, faut qu'on fasse un truc comme ça. Ça fera plaisir aux fans. En fait, ils savent pas faire.
Bah, je pense, ouais.
Bah, ils savent faire, mais d'une moindre mesure. Je veux dire, la quête des amoureux dans Majora's Mask, c'était très beau.
Enfin. Oui, voilà, mais c'est une quête.
Mais c'est pas de l'épique aussi.
C'est pas de l'épique, non, c'est plus du personnel.
C'est de l'intime, c'est du personnel, alors que Twilight Princess, ça va être de l'épique. Je pense que les équipes Zelda, elles sont pas très bons en épique, hein. En tout cas, à cette époque-là.
Moi, je maintiens que Spirit Tracks arrive à faire un final extrêmement épique.
Spirit Tracks arrive à faire un final épique, c'est dommage que le reste du jeu soit un peu
plus. Faut se taper le reste du jeu pour y arriver.
C'est un peu ça. Bah, c'est pas un, c'est pas un mauvais Zelda, mais c'est vrai que c'est compliqué, Spirit Tracks.
C'est sur des rails.
Littéralement.
Oui, faut s'y faire. Je comprends qu'on ne s'y fasse pas, moi, bah, je m'y suis fait, mais bon. Je suis pas tout le monde.
Voilà. On a des petits éléments de Metroidvania, alors plutôt des petits éléments de Metroid en réalité, notamment, alors généralement limité au donjon, même s'il y a 2-3 trucs optionnels, typiquement t'arrives dans un endroit, il y a un quart de cœur à un endroit, mais tu peux pas l'attraper parce que t'as pas encore le grappin, dès que t'as le grappin tu pourras l'attraper, mais on retrouve pas mal d'éléments, en tout cas à partir de Zelda 3, des donjons qui commencent à être un peu compliqués, qui bouclent sur eux-mêmes, dans lequel faut récupérer l'objet pour aller activer le truc qui permet d'aller sur la salle, dans lequel tu as, je pense à Zelda 3, je pense à Link's Awakening, des salles superposées, et il fallait vraiment jouer avec le fait que les salles soient superposées.
Oui, il y a notamment le fameux donjon 7 de Link's Awakening.
Qui est très connu pour ça, parce qu'effectivement c'est vraiment très bien pensé. Je pense aussi à Ocarina of Time. Hein.
C'est un truc qu'on retrouve dans A Link Between Worlds, le donjon superposé.
Tout à fait.
Il était sympa.
Bah, dans plein de Zelda 2D, en fait, tu as cette idée que finalement le donjon n'est pas quelque chose de plat, contrairement à Zelda 1 où les donjons étaient complètement plats.
Oui, je dis que ça ressemble à un dungeon crawler.
Quand je dis tout à l'heure que ça ressemblait à un dungeon crawler, c'est à ça que je pensais, quoi. C'est vraiment l'objectif, c'est juste d'aller au bout du labyrinthe, et c'est même pas vraiment un labyrinthe. Donc c'est quand même, ça fait des trucs un peu bizarres, quoi. Mais voilà, il y a ces petits éléments Metroid, je pense notamment le Temple de l'eau de Majora's Mask, qui est assez connu pour ça aussi, dans lequel tu changes le sens du courant pour l'intégralité du donjon, donc tu changes complètement la topologie des pièces.
Voilà. Dans une moindre mesure, le donjon de l'eau de Ocarina of Time, je viens de dire.
Oui, avec le niveau de l'eau qui va changer le niveau des caisses, qui va rendre certaines sorties accessibles, d'autres pas, et ainsi de suite. Mais voilà.
Est-ce que du coup, on peut considérer qu'une des conditions pour être un Zelda-like, c'est d'avoir un donjon de l'eau labyrinthique ?
Écoute, on pourrait. Parce qu'en vrai, quelques exemples.
C'est quand même assez courant chez Zelda.
C'est vrai que globalement.
C'est assez courant. Après, le donjon de l'eau de Twilight Princess était un tout petit peu plus simple.
Bah de manière générale, je pense que les donjons de l'eau après Ocarina of Time ont tous été un peu plus simples.
Alors, celui de Majora, il était encore bien velu. Hein.
Mais en fait, t'es bien. Ah non, je pense au remake. Le remake sur 3DS te guidait bien.
Pas la version normale.
La version originale, effectivement, était bien velue. Mais c'est vrai que ces donjons qui finalement bouclent sur eux-mêmes, qui contiennent l'essentiel du combat des énigmes, c'est aussi ça qui fait la formule, quoi.
Oui, et puis il y a. Alors, c'est des choses qui se perdent un petit peu avec dans certains épisodes un peu qui se veulent un peu plus simples, mais il y a aussi une volonté de que le joueur se repère dans l'environnement. D'ailleurs, c'est pour ça que la carte très souvent est optionnelle entre guillemets, dans le sens où il faut la trouver. Là où en général tu vas être dans les épisodes actuels, la carte tu vas la trouver très vite, mais en gros il y a vraiment cette idée de se repérer dans le donjon et ta challenge en soi.
C'est ça, il y a du. Comment ça s'appelle du. C'est pas du situation awareness, je sais plus.
Ouais, on en avait parlé.
Sens de l'orientation.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
L'objectif du donjon, c'est effectivement de stimuler un peu ton sens de l'orientation et d'avoir ce moment. Haha! Tu sais, au moment où t'as trouvé un truc, t'as ouvert une porte et tout d'un coup, paf, tu reviens sur le hub principal et hop, tu vas aller faire une autre boucle. Après, ça peut être un défaut aussi. Hein. Je rappelle que Twilight Princess avait tendance à faire des donjons qui fonctionnaient quasiment tous sur ce modèle-là.
Oui, mais du coup, qui était très linéaire.
Et du coup, qui se retrouvait bizarrement très linéaire, en fait. T'avais systématiquement un hub central, et puis une boucle 1, une boucle 2, une boucle 3, une boucle 4, et puis ensuite le boss, quoi. C'est un peu bizarre.
Alors pour l'analyse de donjons, je vous recommande Buskies de GameMaker Toolkit, qui fait tous les épisodes de Zelda sauf Echoes of Wisdom. Je pense qu'il va pas être très tendre sur Echoes of Wisdom.
Peut-être qu'il le fera. En tout cas, effectivement. Et en plus, il y a les sous-titres en français pour les gens qui ne parlent pas anglais. Il y a des sous-titres français qui sont disponibles depuis quelques semaines, quelques mois.
C'est très bien. Après, l'anglais, quand on a l'habitude, est compréhensible, mais c'est sûr que...
Il parle très doucement. Il a pas vraiment un accent à la con. Ça se comprend. Puis il fait plein de schémas.
Il est juste un peu british.
C'est ça.
My teller is rich.
Ah non, ça, il le fait pas.
Il pourrait. Et enfin, le dernier élément qui nous permettait de définir, c'est les objets qui permettent de venir à bout des donjons. Donc finalement, les donjons, c'est à la fois un labyrinthe qui ressemble à un Metroid dans lequel on va aller ouvrir des portes ou avoir des portes qui ne s'ouvrent que dans un seul sens, du design qui boucle, des choses comme ça, du sens de l'orientation qu'il va falloir développer, des petits moments AA, et puis surtout, les objets, quoi, qu'on trouve dans le donjon, et qui permettent de simplifier la traversée des pièces qu'on a déjà traversées, de battre le boss, effectivement. Si l'objet est un décapsuleur, le boss est une bière. Mais étonnamment, le reste des énigmes sont aussi des bières. Attendez. Enfin, mal se passer ce donjon.
J'aime bien.
Et parfois même, alors quand c'est poussé un peu à l'extrême, je pense à Twilight Princess, où t'as des objets qui ne servent vraiment que dans le donjon dans lequel tu les trouves, quoi. J'ai pas d'autres exemples d'objets qui soient tellement particuliers que finalement...
C'est pas un peu ça en Skyward Sword aussi c'est vraiment... Notamment les derniers.
Pas vraiment, hein.
Mais non, parce que t'avais dit... Tu te rappelles, l'Overworld, c'était des mini-donjons, et quand tu revenais sur une zone que t'avais déjà explorée avec un objet que t'avais récupéré ailleurs, ça te donnait quand même accès à d'autres choses, quoi. Ou à des raccourcis.
Ils avaient tenté un truc, effectivement, avec des zones à explorer. C'était pas un grand... t'avais pas un...
En fait, techniquement, l'Overworld, c'est le ciel, donc la surface, c'est l'Underworld. voilà, ils ont été malins.
Voilà. Ils ont été très malins.
Dans Ocarina of Time, il y a le Megaton le marteau là géant.
Le Megaton Hammer. Ouais.
Voilà, qui n'est vraiment utile que dans le donjon du feu, mais que t'en as besoin de nouveau à 2-3 endroits. Mais c'est juste un levier qui est un peu joli, quoi.
C'est vrai que c'est assez anecdotique. Je crois qu'il y a certains gros cailloux qu'on peut casser avec, mais pas tous.
Ouais, en même temps, c'est assez compliqué de faire des objets qui soient versatiles sur tout le jeu. Enfin, quand t'as un truc aussi pratique qu'un arc ou un grappin, forcément, ce qui va arriver à côté, ce sera souvent pas aussi efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que les pouvoirs des deux Zelda Switch, c'est un petit peu un exploit de réussir à faire des trucs aussi versatiles avec seulement 4 pouvoirs. Enfin, c'est vraiment très très bien fait là-dessus.
Oui, puis en plus, ça permet finalement de réduire le truc, parce que le problème de finalement cette formule dans laquelle tu trouves un outil qui va te permettre de finir un donjon, de battre un boss et ainsi de suite, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'effectivement, à un moment, quand t'as 3 objets puis 6 objets à récupérer, ça fait 9 armes à concevoir, et effectivement faire des choses versatiles sur 9 objets différents sans te répéter, c'est quand même très compliqué.
Il y arrive quand même.
Un des rares Zelda qui le fait bien, c'est Link's Awakening. Je trouve que la majorité des objets sont utiles tout au long du jeu.
Je trouve que les Oracle se débrouillent pas mal avec leur système de graines qui remplace un petit peu une variété d'objets.
Alors, il va falloir que tu nous expliques, parce que je suis pas très familier avec Oracle of Seasons et Oracle of Ages, et j'ai peur de pas comprendre.
Ok, alors, vous voyez les bottes de Pégase?
Oui.
Voilà, c'est grosso modo, vous mettez les bottes de Pégase et vous pouvez foncer dans le tas pendant 10 secondes. Dans les Oracle, au lieu d'utiliser les bottes de Pégase, vous pouvez utiliser des graines Pégase. Ce qui veut dire que vous allez avoir une quantité limitée de l'effet des bottes Pégase.
Ah, effectivement, oui. C'est une autre manière de voir le truc.
Okay. En fait, ce qui se passe dans le menu, c'est quand tu sélectionnes le sac de graines, il te propose après de choisir la graine. Et t'en as 4 ou 5 comme ça dans le jeu, ce qui fait qu'ils ont plus de place aussi pour mettre d'autres objets à côté. Enfin, de toute façon, Oracle, c'est très inspiré de Link's Awakening dans l'ensemble.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y avait, typiquement les bottes qui étaient un objet dans Link's Awakening, là c'est une graine qui est aussi un objet, mais il y a de la place pour d'autres choses.
Ok, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf si je me trompe. J'ai plus rien dans le conducteur, on va se dire que c'est bon.
Je pense qu'on est à peu près bon. Hein.
Peut mentionner le fait qu'il y a un gimmick par jeu, hormis les deux premiers évidemment, mais c'est accessoire, quoi.
Le deuxième, il y a un gimmick. Hein.
Ah, ça fait pas... Le gimmick, ça fait surtout partie de Zelda, plus que des Zelda-like, je pense. Parce que les Zelda-like auront leur propre gimmick, du coup, pour se différencier.
Oui, exactement. Oui, voilà.
Mais dans Zelda 2, il y a un gimmick, hein.
Ah, t'es, c'est
en t'es en vue de côté.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, mais je veux dire, par exemple... Je veux dire, par exemple, l'Ocarina d'Ocarina of Time, même si il est vraiment pas utile dans Ocarina of Time par rapport à Majora's Mask, je suis désolé.
Oh, il est bien utile, quand même.
C'est un téléporteur.
C'est
vrai que ça reste un gimmick, oui. C'est un téléporteur.
Ça reste une clé pour résoudre des énigmes la plupart du temps.
Voilà.
Une clé un peu merdique aussi, parce que finalement, tu vois un bloc bleu avec une Triforce dessus, bon, bah, c'est le champ de Zelda, tu sais. Ça devient un peu un automatisme quand tu connais le truc, c'est pas... Bon.
Bah, d'ailleurs, le gimmick musical, après Wind Waker, ils l'ont un peu abandonné, hein, parce qu'il n'y a plus vraiment d'épisode... Ah si, c'est dans Spirit Track, il y a la flûte de Pan.
Oui,
qui était sympa, mais c'était grosso modo, tu tiens à un moment donné, tu fais ton truc, et là, t'as un oiseau où tu peux utiliser le fouet pour aller à une petite île. C'était des conneries, hein, soyons honnêtes.
Ça reste un petit peu anecdotique aussi.
Bref. Voilà.
Donc on va faire une deuxième... Oui, pardon.
J'allais juste dire que ça faisait un... Ils l'ont repris dans le final, où du coup, il faut faire un duo avec Zelda, et c'est là que ça commence la musique qui ensuite va grossir, et tu commences le combat final avec le boss, et ça fait un bon moment... Mais encore une fois, c'est un gros gimmick.
On est d'accord. On va s'écouter un autre petit morceau de la bande originale de Darksiders 2, toujours composé par Jasper Kidd. Alors, à la première pause, on a appris que c'était le mec qui avait composé donc la trilogie Assassin's Creed 2. Oui, ça existe. Non, moi, ça me fait marrer comme...
Bah, il y a la trilogie FF13 aussi. Hein.
Ça suffit. Je voudrais qu'on arrête avec les trilogies. Là, c'est pas possible. Bref, donc un monsieur intéressant. Le morceau s'appelle Death Brings Hope. Comprendrez, si vous avez fait le jeu, vous comprendrez tout de suite. Ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et nous allons donc terminer cette émission, ce petit tour finalement de qu'est-ce que c'est qu'un Zelda. Alors on a déjà essayé d'expliquer qu'est-ce que c'était qu'un Zelda, on a repéré les éléments principaux.
Déjà, c'est pas simple.
C'est pas forcément simple, hein. On vous l'avait prévenu, hein. On l'avait dit, on pensait que c'était simple avant de démarrer l'émission, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça.
Bah, si vous voulez vous marrer, demandez à des gens autour de vous c'est quoi pour eux Zelda et vous verrez que vous aurez jamais la même réponse.
En plus, ouais.
Ah, c'est le mec avec l'épée là, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et le bonnet vert, c'est le Père Noël.
Quel enfer. Bref, on a fait une espèce de petite compilation. Il y a une petite douzaine de titres qui sont des Zelda-like, donc pas des Zelda à proprement parler, mais des jeux qui y ressemblent très fortement, qui reprennent tout ou partie de la formule dont on parlait tout à l'heure. Je les ai pas mis dans un ordre particulier, je vous propose simplement de les évoquer, de voir un petit peu ce que ça évoque aux uns et aux autres. Il y en a certains, c'est juste des choses qu'on a repérées et qu'on va vous renvoyer vers, mais c'est pas forcément des jeux qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns qui sont en bêta ouverte, notamment sur Steam. Il y en a d'autres qui existent depuis très longtemps. Il y en a quelques-uns qui sont dans la liste et je me demande pourquoi, mais je vais avoir les réponses dans pas longtemps, et vous aussi. On va commencer, je crois que c'est une petite sélection qui avait été faite par Renard, qui nous avait dit Seed of Life, si je ne dis pas de bêtises.
Ce qui est pratique avec ma petite sélection, c'est qu'elle couvre un petit peu les trois grands genres de Zelda qu'on a vus, c'est-à-dire le Zelda 2D, le Zelda Ocarina of Time et le Zelda plus Twilight Princess. Et du coup, Seed of Life, c'est bien Twilight Princess, mais j'aime pas être un humain, je veux juste être un gros chien. Et du coup, c'est Seed of Life. C'est fait du coup par un seul développeur qui le fait dans son temps libre. Il fait la musique et tout. Et donc c'est très inspiré GameCube, époque GameCube, et Twilight Princess. Et donc on contrôle un petit chien et on va faire des donjons, on va faire des trucs, etc. Et voilà.
Ok, bon, ça a l'air tout à fait sympathique. C'est vrai que j'ai vu que ça revenait un peu à la mode, le style entre guillemets PS2, Xbox, GameCube, c'est-à-dire
oui.
Pas du low poly, mais des choses, on va dire. Enfin, c'est très difficile à définir, mais c'est une période où la 3D c'était mieux, mais pas encore top. Je pense que c'est ça qui définit peut-être le mieux.
Oui, bah après, tant mieux, parce que la 3D hyper détaillée, bah, ça prend vachement de temps pour un résultat qui parfois laisse un peu à désirer. Les choses qu'on a connues quand on est enfant, bah forcément ça va devenir de la nostalgie, et donc et bah il y a des gens qui vont tenter de la recréer. Et donc là bah c'est autour de la PS2 et bientôt ce sera probablement autour de la PS3.
Exactement, et je pense que ça pourrait être un thème d'émission intéressant d'ailleurs, parce que finalement, il y a une dizaine d'années, les jeux indés, ça s'inspirait beaucoup de la NES. On avait énormément de style NES, du pixel un peu, vraiment du gros pixel. On a eu un petit peu de la période plus Super NES, je pense à Sea of Stars par exemple, qui ressemble à notre souvenir de la Super NES.
Ouais,
Super NES,
Sea of Stars, ça courait plutôt très un jeu Saturne.
Oui.
Peut-être, oui, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est il y a eu cette période avec du low poly vraiment PS1 avec les textures qui warp, avec tout ça, et on commence à voir. J'ai notamment en tête un jeu d'horreur qui est très très inspiré d'un Silent Hill. Et franchement, quand tu regardes le jeu la première fois, tu dis ah, c'est un jeu PS2 perdu en fait. Ça ressemble vraiment à ça, avec des effets de lumière, des ombres très découpées, des effets de lumière très basiques. Enfin bref, mais je trouve que le sujet est pas inintéressant. Faudra peut-être qu'on y consacre un jour une émission à se dire est-ce que finalement les indés ne reprennent pas des techniques pour jouer exprès sur la nostalgie, il y a peut-être des choses à faire.
Alors, je pense qu'il y a une partie de nostalgie et une partie de, bah, en fait, c'est quand même moins cher que les 3D réalistes.
Oui.
Ah, ça, c'est clair. Hein. C'est évident.
Tu veux faire un jeu d'aventure? Juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, il y avait un mec qui disait que pourquoi le Metroidvania, c'est aussi populaire chez les indés? Bah, en fait, c'est simple. Si tu veux faire un jeu avec un monde relativement grand, avec des évolutions, en fait, c'est vraiment le meilleur canevas pour un jeu 2D.
Oui.
Avec une évolution qui est pas très, enfin. Avec un coût relativement moindre. Alors après, Metroidvania, c'est pas facile à faire, mais voilà, c'est un peu
fin de la parenthèse. Faut arriver à le faire. Bon, le deuxième jeu qui nous a été amené par Renard, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mina the Hollower. Alors celui-là, j'ai pas du tout regardé ce que c'était, donc je te laisse en parler si t'as un petit pitch en quelques phrases.
Alors, vous connaissez probablement les créateurs de Shovel Knight Yacht Club Game, pas vrai?
Oui.
Voilà. Eh bien, ce sont eux. Ce sont eux. Ils ont décidé de faire un Kickstarter pour encore faire un jeu en pixel, mais cette fois-ci inspiré plus de Zelda Link's Awakening. Et donc là, pour le coup, on contrôle une souris parce que forcément, on avait un chien, maintenant on a une petite souris.
On fait dans l'animalier ce soir, c'est bien.
Oui, on fait dans l'animalier.
Le retour des furries.
Et donc son petit gimmick à elle, c'est qu'elle peut creuser dans la terre, ce qui va du coup lui permettre d'esquiver les attaques ennemies, mais ensuite elle peut surgir de terre, ce qui lui permet de faire l'effet de la plume de roc.
Ah, ok. Voilà. Effectivement, ça peut être intéressant.
Voilà. Et du coup, c'est très... Il faut voir un petit peu les graphismes, parce que c'est vraiment très inspiré Link's Awakening, Oracle of Age, Oracle of Season. Ils ont même gardé les limites de la Game Boy dans la tête, tout comme ils avaient fait pour Shovel Knight. Ils avaient gardé les limites de la NES en tête.
Oui, alors les limites de la NES sur Shovel Knight...
Oui, les limites fantasmées de la NES.
Ils ont essayé de se rapprocher. Le seul qui a gardé les limites de la NES pour Shovel Knight, c'est le compositeur. Beaucoup, ça tourne vraiment avec du matos NES.
Ça a été vraiment fait avec du vrai matos NES, et c'est... je crois qu'à un moment, il avait même mis à disposition les fichiers pour le lire avec un émulateur NES, parce que c'est vraiment... Ah non, mais c'est vraiment fait avec exactement les 5 voix de la NES, une voix carrée, une voix triangulaire, un générateur de bruit, enfin le mec a vraiment fait ça comme ça, quoi.
Excellent.
Excellent.
Troisième petit truc, alors celui-là, il m'a un peu surpris.
Alors c'est en cours de développement, c'était Azaran Island of Jin. Quand on regarde les images, quand on voit un petit peu comment ça bouge, ça ressemble très 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 fort à Ocarina of Time et ça ressemble très 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 fort à de la N64.
Oui. Oui, il y a même les animations qui moi personnellement me font énormément penser à Link dans Ocarina of Time. Genre quand il tient un objet au-dessus de sa tête, bah quand il prend un objet, il le tient au-dessus de sa tête et il regarde de gauche à droite comme dans Ocarina of Time. Il y a même l'attaque à l'épée qui est comme dans Ocarina of Time. C'est la même posture et tout. Et il y a même des objets comme dans Ocarina of Time. Il y a même une interface qui est comme dans Ocarina of Time avec les touches là.
Le mec s'est dit qu'il allait refaire Ocarina of Time. En fait, on va découvrir que c'est juste un mode d'Ocarina of Time dans quelques mois. Le mec a repackagé ça, un émulateur avec un upscaler dedans, et puis boum.
Ce serait marrant.
Il y a un certain mecton qui m'a proposé Epic Mikey. Alors là,
je suis confus, personnellement.
Je suis confus.
Alors là, monsieur mecton, il va falloir bien défendre votre cas, parce que
truc, hein.
Le jury est complètement circonspect par ce que vous avez dit.
Exactement.
Vous avez mis un certain jeu avec des cavaliers de l'apocalypse dans la liste.
Oui.
Je vous retourne la question, c'est quoi la différence avec Epic Mickey à part qu'on joue une souris ?
Bah j'y ai joué à Darksiders.
Alors moi j'ai pas joué à Epic Mickey non plus, donc c'est pour ça que je suis très surpris. Pour moi c'était un jeu d'aventure assez linéaire, il n'y avait pas vraiment d'overworld, il n'y avait pas vraiment de donjon, mais peut-être que je me trompe.
Alors c'est un overworld mais façon... Ah putain, le Skyward Sword. À chaque fois j'ai celui qui se passe dans le ciel et je ne retrouve pas le nom. Un espèce de gros hub central, des mini-mondes à côté que moi je vois comme des petits donjons à gimmick, le gimmick étant la plupart du temps un clin d'œil à des vieux épisodes de l'histoire de Disney.
D'accord. Ok. Donc de ce point
mais
de vue-là, ça
côté,
pourrait...
Voilà, on garde ce côté exploration, mini-énigme. On n'aura pas d'objets nouveaux, pas vraiment
contre,
de level-up.
Par contre, il y a un gimmick comme dans les Zelda, à savoir la peinture et le...
Et le dissolvant, ouais.
Et le dissolvant, voilà. Qui est aussi utilisé pour les boss. Encore une fois, des capsuleurs, bouteilles de bière.
Putain, ce solvant, peinture, des capsuleurs, bouteilles de bière, c'est vrai qu'effectivement, le cheminement de pensée qu'on a ce soir est quand même beaucoup vers la bière. Hein, c'est pas
cool. Finalement, c'était pas ça l'essence même de Zelda. Le houblon.
Zelda Legend of Houblon. Non mais c'est vrai que après Breath of the Wild, après Tears of the Kingdom, Houblon of the Kingdom,
on fait des smoothies dans le dernier. Hein.
C'est vrai.
Tu mets des fruits qui sont en train de fermenter, ça fait de l'alcool. Hein.
Non mais c'est ça. C'est ça.
Rappelez-vous,
en fait,
je mets un billet sur The Amish Cap.
C'est ça.
N'oublions pas que dans Majora's Mask, on a protégé une cargaison d'alcool.
C'est vrai. En plus,
alors c'est pas vrai, c'est
vrai.
Du lait long, mais dans un bar pour adultes uniquement.
Oui, enfin, la cuvée Romani, tu vas pas me dire que c'est pas de l'alcool, hein ?
C'est vrai qu'effectivement...
Bien sûr que c'est de l'alcool.
Ça ressemble à ça. Non mais voilà, vraiment, effectivement, là maintenant qu'on a fait des smoothies, il reste plus qu'à faire du rhum arrangé, et puis on est bon, quoi. Bref. Tu nous avais proposé ici Newtopia 1 et 2, et effectivement, ce sont des jeux qui se voulaient plus être des clones d'un IS.
Des clones. Clairement. Alors, des clones, pour moi, le premier Newtopia, donc c'est des jeux PC Engine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, 89 pour le premier, 91 pour le deuxième, je crois. Le premier, c'est clairement un clone du premier Zelda, au-delà du fait qu'on a les déplacements en diagonale. Et le 2, la petite anecdote que j'aime bien, c'est qu'il ressemble très très fortement à A Link to the Past, mais il est sorti quelques mois avant.
Effectivement.
Du coup, je vois assez bien deux équipes de devs qui ont eu à peu près les mêmes idées et qui se sont marché dessus.
Sauf
effectivement,
que...
c'est possible.
Sauf que la Super NES était légèrement plus populaire.
Oui, mais après, la PC Engine marchait bien au Japon, donc...
La PC Engine, je la connais d'un animé qui parlait justement de cette période. Moi, ça m'a beaucoup touché, je ne le connaissais pas avant.
Je crois d'ailleurs que... Alors, c'est un jeu qui, me semble-t-il, était disponible sur Wii... Dans
le 2, c'est sûr, le premier,
le
je
2,
sais pas.
C'est sûr, c'est vrai que je
ouais, premier,
ce
serait
j'ai un doute.
Ce serait con de pas avoir sorti les deux. Mais...
Bah, ça peut arriver hein, des fois, mais il me semble que ça n'est plus disponible maintenant. Tu peux plus le racheter nulle part, ce truc-là.
Ah.
Il me semble, hein, je pourrais dire une bêtise, mais il y a peut-être des collections PC Engine dans lesquelles il est dispo.
Oui, au pire, ça doit se trouver là où vous savez.
effectivement, dans ton cul. Attends, non, pas du tout. Voilà, c'était trop facile. Désolé. Tu nous as aussi proposé Baldo. Alors Baldo, je connais pas du tout, hein, donc c'est pareil, il va falloir expliquer.
Alors Baldo, c'est très drôle parce que...
Ça a un rapport avec Balatro ?
Non, pas du tout. Non, je sais pas si vous vous rappelez, quand le trailer était sorti, on avait tendance à appeler le jeu Zeldo.
Ah, putain, mais alors ça me dit rien du
tout. Je sais pas si ça vous parle. C'est A Link to the Past avec l'esthétique Ghibli.
Ah, ce jeu-là ! Ah oui, effectivement, oui.
Oui, effectivement, une petite esthétique Ghibli.
Et effectivement, je me rappelle que le jeu ressemblait énormément à Link to the Past, c'est-à-dire, oui, c'est... T'as le même genre de truc, quoi. T'as un overworld, t'as des donjons, t'as des combats un peu simplistes. Voilà, de manière générale, il y a beaucoup de jeux Super NES qui peuvent coller à cette description. On essaye vraiment de réduire
c'est
un peu...
C'est le bonnet, la différence.
C'est ça. Là, le bonnet, il est dessiné par Ghibli. Voilà.
Le bonnet est important.
C'est très important.
Toujours.
Okami. Alors, Okami, il va falloir que...
C'est parti, allez.
Voilà, allez, c'est parti.
Je me, alors, je me mets dans le coin bleu.
Qu'est-ce qu'il fait la ronde pour le défoncer ou qu'est-ce qu'il défend?
Moi, je veux bien le défoncer.
Ok, moi, je vais être modéré parce que je l'ai bien aimé, mais j'ai des trucs contre lui.
Alors, déjà, pour rappeler un peu c'est quoi Okami, c'est un jeu PlayStation 2 sorti en fin de vie de la console, développé par Clover Studio, futur Platinum Game, pardon.
C'est ça, qui ont fait précédemment God End et qui ont fait tout un tas de trucs depuis.
Exactement, et dans lequel on joue Amaterasu, la déesse du soleil japonais. Donc tout se passe dans la mythologie japonaise.
Et Amaterasu, encore un chien.
Amaterasu, c'est un chien, et le but c'est d'aller sauver le Japon qui est envahi par les monstres, notamment le très grand méchant Orochi, le dragon à 8 têtes.
Que tu dois battre 3 fois d'affilée, 3 fois différemment.
4.
Quatre, beaucoup trop.
Voilà, qui est un jeu Capcom. Voilà, on voit que c'est un jeu Capcom parce qu'à la fin, tu te retapes contre tous les boss du jeu.
Oui, il y a un boss rush.
Y compris celui que t'as buté 2 heures auparavant.
C'est ça, c'est très un peu dur. Ridicule.
Mais, qui a laissé Shu Tokami réutiliser tous les assets du jeu?
Écoute, le mec fait ce qu'il veut. Hein.
Et le gimmick de Okami, c'est que pour libérer le monde, il va falloir utiliser un pinceau. Donc le genre de pinceau qu'utilisent les japonais pour écrire les kanji, faire de la calligraphie, pour dessiner différents éléments qui vont permettre d'interagir avec le monde. Donc par exemple, tu fais un cercle, ça fait le soleil. Et le soleil, ça permet de passer à la journée, libérer la zone. Si tu fais un cercle et tu rajoutes une petite mèche, ça fait une bombe. Voilà.
Voilà, c'est effectivement le gimmick du jeu. Et après, pour le reste, c'est vrai que la formule... Là, on est vraiment sur quelque chose. Jusqu'à présent, on était dans du proche, voire du très proche. Hein. Effectivement, Baldo, je me rappelle de ce jeu-là. Mais là, Okami, on est vraiment... T'as un overworld, t'as des donjons, t'as pas de combat aléatoire, tout est visible, t'as des armes que tu upgrades, tu as des nouvelles armes que tu débloques, des nouvelles capacités que tu débloques avec le pinceau. Ce qu'on disait, un soleil, une bombe, t'as le truc pour la restauration. Tu vas peinturlurer, barbouiller un truc, et puis le pont qui était cassé se reconstitue, et ainsi de suite. Donc on est vraiment... Là, le Zelda-like, il est vraiment assumé, quoi. C'est assumé qu'on a fait un truc qui ressemble à un Zelda.
Les combats sont un peu plus poussés, parce que tu vois que c'est des mecs qui ont bossé sur Devil May Cry, des techniques, des techniques supplémentaires, les armes se manient pas tout à fait de la même façon.
Même deux armes d'une même catégorie peut être différent dans son sentiment.
Exactement. Mais ça reste quand même très centré sur l'exploration, la résolution d'énigmes de quêtes.
Voilà. Et aussi,
pourquoi vous l'aimez pas ?
Alors, déjà, faut que tu battes le même boss 4 fois.
Bon, ça, je suis OK.
Voilà.
Je trouve que... Alors, ça, c'est un des trucs qui était beaucoup dans Twilight Princess. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Ocarina of Time, finalement, les donjons et l'overworld, comme dans Link to the Past, comme machin, ce sont deux zones bien séparées. Finalement, t'as le donjon et t'as l'overworld, et quand t'as pénétré dans le donjon, on te dit t'es dans le donjon machin. Et
c'est ça, limite il y a un temps de chargement quand tu rentres dans le donjon.
Il y a même un temps de chargement quand tu rentres dans le donjon. Ce qui était intéressant, je trouve, avec Twilight Princess, c'est que les mecs avaient commencé à essayer de cacher un petit peu l'entrée du donjon. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu commençais à suivre une quête, il se passait un truc, et en fait tu te retrouvais dans un donjon sans vraiment t'en rendre compte. En tout cas, c'était l'idée.
C'était pas un petit peu le cas avec le donjon de la forêt, justement?
Oui, et il y a plein de donjons dans Twilight Princess qui essayent de faire ça. Alors, Okami essaie de faire la même chose, sauf que les ficelles sont tellement grosses que ça se voit très vite et que tu dis, bon, ok, là va y avoir un donjon. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça sert à rien d'aller le cacher, quoi. C'est un peu ridicule, ça devient même un peu ridicule et presque contre-productif. Tu sais que t'es dans un donjon et on t'empêche d'aller faire ce que tu as à faire.
J'ai même pas remarqué qu'il cachait l'entrée du donjon, vraiment.
Ah, ils essayent, hein.
C'est le genre de truc qui m'avait pas gêné jusqu'à ce qu'on en rediscute, et là où je me rends compte que oui, c'est évident. Après, tu vois, je remets le jeu dans son contexte, et à l'époque, j'avais pris ma petite claque au-delà de l'aspect visuel, hein. On en a pas parlé, mais il est hyper original pour le coup.
Aspect donjon caché.
Ah, tu trouves? Ah, ça m'a pas gêné.
Pour certains, il donnait mal à la tête. Moi, personnellement, j'ai joué à la version Switch, donc j'ai pas eu de problème.
Cet aspect donjon semi-banqué, pour moi, j'ai jamais vu aussi bien que dans Tears of the Kingdom, quoi.
Oui. Là, c'est vraiment bien intégré. Mais tu sens qu'en fait, dans Okami, c'est balbutiant. Et en fait, il y a plein de trucs que je trouve assez lourds. Notamment, il y a les 30 minutes d'intro que tu peux pas zapper.
Ah, ok.
L'électrobot est enfermé dans la zone de combat aussi, quand tu touches les ennemis. Ça, c'est un peu relou. Après, moi, j'aime beaucoup.
C'est un choix.
Moi, c'est parti des gens qui aiment bien le jeu, mais effectivement, il y a des défauts qui sont lourdingues qui me donnent pas envie d'y rejouer, notamment Orochi, quoi.
Orochi, notamment.
Effectivement, j'aurais tendance à dire la même chose. J'ai pas fondamentalement détesté le jeu, même si je passe mon temps à dire que j'ai détesté le jeu, c'est pas tout à fait vrai.
Je pense que tu t'as décroché sur la deuxième partie où tu sens vraiment qu'ils étirent la sauce pour que ça dure un peu, quoi.
C'est aussi une époque où les critiques, notamment les critiques pro, avait tendance à sabrer les jeux dès qu'ils étaient trop courts. Et en fait, ça, c'est typiquement le jeu qui aurait peut-être mérité de s'arrêter quand il avait plus rien à dire. Et en fait, c'est à peu près à la moitié du jeu.
Oui, après, c'est... Ce
ouais, je trouve qu'après QB, le jeu, il perd vraiment de son intérêt.
Oui, parce qu'on part dans un... On part dans un délire qui était juste une petite blague de potache dans la première partie du jeu, mais on part dans un délire et tu te dis « Bon, d'accord, ce sont des aliens, ok. »
Ouais, il y a un moment où ça part vraiment en couille. Hein. Donc voilà, donc c'est pas. Fondamentalement, en fait, mécaniquement, je le trouve intéressant. La direction artistique est assez folle, la musique est assez folle, ça on l'a dit, on le redit, mais là-dessus, le jeu a des qualités, il n'y a pas de doute.
Artistiquement, oui, c'est sublime, et en plus, maintenant, comme il y a des versions HD absolument partout, vous pouvez encore en profiter.
Complètement, et à des prix très corrects en plus, hein. Donc si vous avez envie de tester Okami, allez-y, faites-vous plaisir. Le gimmick est pas mal, en réalité le gimmick est assez rigolo parce que finalement on te souffle pas toujours ce qu'il faut faire. Vraiment, il y a des fois où il faut que tu devines par toi-même et je trouve que c'est assez bien foutu.
Je me rappelle pas s'il y a plusieurs manières de passer les obstacles.
Non, généralement il y en a toujours plusieurs, pareil. Il y a toujours une seule méthode, mais... On te flèche pas toujours le truc. C'est-à-dire, faut que tu te dises, ah, bah alors, est-ce que c'est Renaissance? Est-ce que faut que je fasse un soleil? Est-ce que machin? Enfin, tu vois,
C'est pour les combats, tu peux t'en servir aussi. Et là, pour le coup, il y a des monstres que tu peux battre plus facilement avec certaines techniques, un peu à la Wonderful 101.
Ouais.
Tout à fait.
Pas aussi complexe, mais.
Non, c'est pas aussi complexe, mais c'est quand même agréable. Voire même, je crois que tu peux finir le combat en 2 minutes si t'es suffisamment puissant.
Il y a quelques combats, oui, que tu peux finir très très vite. Mais voilà, ce qui m'emmerde avec Okami, c'est que finalement, je trouve que essayer de planquer les donjons alors qu'ils se voient comme le nez au milieu de la figure, c'est pas très utile. Le dungeon design lui-même est pas ouf. Il y a un ou deux donjons un peu marquants et encore, mais au global, ça reste un truc assez bateau, je trouve, en termes de...
Tiens, j'aurais une question un peu troll.
Mais je vais troller.
Est-ce qu'il y a un donjon d'un Zelda-like? Oui, ça, non, mais ça, c'est clairement... Ma question un peu troll, est-ce qu'il y a un donjon ou assimilé donjon d'un Zelda-like que vous avez trouvé mieux foutu que sur un vrai Zelda?
Oui, et on en parlera un peu après.
Ah, hey. Je suis heureux d'avoir ta réponse là.
Tu vas la voir, tu vas voir. Peut-être que tu seras surpris. Dans la suite, on avait Tunic. Alors, non. Je vous allez faire la blague, donc je dis non tout de suite.
Tunic Zelda. Tunic. Oh. Il est innocent, c'est beau. Tunic, Zelda-like, je suis moyen d'accord.
Bah plutôt Zelda 1-like.
Ouais, moi j'ai un peu envie de dire Zelda 1-like aussi, parce que effectivement l'objectif c'est plus... Enfin, t'as pas vraiment de donjon, donc t'as
pas
vraiment
d'underworld. C'est plus une énigme géante, en fait, quoi.
C'est plus une espèce d'énigme géante, mais ça ressemble beaucoup à Zelda 1, parce que Zelda 1, chaque écran, t'avais une énigme.
Mais de toute façon, il a un bonnet, le renard, donc on a dit à partir du moment où il a un bonnet, c'est un Zelda-like.
Bref, bon, effectivement, Zelda-like, là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux.
Je dirais plutôt que c'est un
très inspiré
hybride.
Quand même.
Oui, très inspiré. Mais
non, c'est intéressant, on est à la limite.
ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est plus à considérer comme un hybride entre Zelda 1 et du coup quelque chose comme un Dark Souls dans le système de combat.
Oh putain, ok. Tu vois, j'aurais dit entre Zelda et Outer Wilds, moi.
Ah oui, plutôt.
Oh. Outer Wilds, oui, 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 il y a une pincée de ça.
Il oui. y a une pincée de ça, mais en fait, ça ressemble effectivement beaucoup plus à un... Ça ressemblerait presque à un point and click, mais sans le point et le click.
C'est un mélange oui. de Zelda et Fez.
Potentiellement, mais tu ouais. vois, il y a quand ouais. même quelque chose où tu te dis, il y a un petit morceau de Zelda, notamment la gestion de l'overworld.
Je trouve que quand même, quand tu vois le jeu, la première chose à laquelle tu penses, ça reste quand même Zelda, sauf que le héros, c'est un renard, quoi.
C'est ça. Et donc, c'est
oui,
mieux.
Ça y ressemble beaucoup.
C'est bah mieux oui. parce que le héros, c'est pas Zelda. Le c'est gars qui a une épée, là, personne, mmh. tout le monde s'en fout, quoi. Alors, pareil, dans les vieilleries, on a Soleil, qui était sorti sur Mega Drive et qui se voulait être un concurrent de Zelda direct. Donc là, c'était vraiment assumé.
De Zelda 3, du coup.
De Zelda 3, tout à fait. Qui reprend des mécaniques très similaires. T'as un overworld, t'as des donjons et tout le bordel. Mais qui a, dont le gimmick est, tu as perdu la parole.
Ah, attends. C'est un Zelda-like.
Oui, ah, le héros est muet, c'est bon. Est-ce que les animaux de la forêt sont devenus fous?
Alors, les animaux de la forêt sont devenus fous, mais en fait, l'idée, c'est surtout.
C'est là
que
ça vient, cette blague.
Non, en plus, elle est vraie, celle-là. C'est les animaux qui te donnent. En fait, tu recueilles des animaux qui, au départ, ne te comprennent pas, tu apprends à leur parler, et en fait, après, tu peux utiliser leur pouvoir.
Oh.
Alors, typiquement. Voilà, tu as un compagnon animal, et en fait, genre, si le compagnon animal, c'est, je sais pas, le renard, bah, tu peux courir très vite. Si le compagnon animal, c'est... Alors, je me souviens plus exactement, j'ai fait... Alors,
j'ai c'est une hyène, t'es testé... présentateur sur CNews.
Oh, putain,
oh la vache.
Ça y est, il est revenu. À l'enfoiré. Genre, si c'est... je sais pas, si c'est le crapaud, bah tu peux sauter plus haut. Tu vois, c'est des conneries de ce genre-là. Donc, en fait, tu vas tourner entre les différents animaux que tu possèdes, comme si c'était des objets, sauf que c'est des vrais animaux que tu as adoptés ou que tu as récupérés un petit peu entre les donjons. Donc, pas inintéressant dans le principe.
Ça me semble un peu costaud pour un concept de Mega Drive, honnêtement.
C'est costaud, hein. C'est-à-dire que tout ne marche pas bien dans l'exécution. On va être très clair, il y a deux, trois trucs, c'est un peu... Voilà, je vous peins un tableau un peu utopique, c'est pas ouf non plus.
C'est pas étonnant, ça reste des jeux 16 bits, tentez pas mal de trucs, hein. On a bien eu Terra Enigma sur Super Nintendo.
Exactement. Hein. C'est des jeux qui tentent relativement de choses. Là, je pense que les équipes qui ont fait Soleil, alors qui s'appellent Crusader of Senti, je crois, aux États-Unis. Oh, alors vache. C'est pareil, c'est un jeu qui a 50 noms différents en fonction du continent sur lequel il est sorti, qui est probablement le jeu Mega Drive le plus difficile à obtenir en plus, donc ça n'aide pas. Il est, je crois, disponible sur le Nintendo Switch Online, l'application Mega Drive.
Je crois pas. Je vais vérifier, mais je crois
bien
pas.
Que tu vérifies, il me semblait qu'il était disponible.
Ah, sinon, il y a une version PC qui traîne.
Et on entend le mec il y va.
Oh, le journalisme total.
Voilà, c'est en direct. Bref, Soleil, il y a des choses intéressantes parce que ça se voulait vraiment un clone de Zelda 3.
Pardon.
C'est horrible.
Oh la
c'est
vache.
Horrible. Ah putain,
oh la vache.
Ah, le mec a gâché tout le podcast.
On peut le bannir, s'il vous plaît.
243 épisodes et le mec nous sort ça.
Vous avez réussi à le dire, quoi.
Pardon. Je dis des conneries, il est disponible. Il est disponible en français, en Deutsch et en espagnol.
En plus, il est disponible en version française.
Il y a une version allemande.
Donc, si vous avez la curiosité d'aller regarder ce que Sega a essayé de faire pour concurrencer Zelda 3, bah, allez jeter un œil. Il y a quelques idées intéressantes.
Dans cette même veine, j'aimerais proposer très rapidement un jeu qui s'appelle Light Crusader, Mystery of the Green Road, qui est pas vraiment à prendre comme un Zelda-like, mais qui a un petit peu le gameplay de A Link to the Past dans le système de combat, sauf qu'il est en vue isométrique. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça
c'est
permet...
infernal à diriger.
C'est infernal à diriger, oui, mais c'est intéressant à voir. Et s'ils avaient tenté de faire un Zelda isométrique.
Mais c'est pas
Landstalker, passer...
ça
Pardon
pas la description de Landstalker aussi.
Ça ressemble à Landstalker.
C'est peut-être juste qu'encore un truc a changé de nom. Hein.
Non. Ça s'appelle Crusader. C'est aussi disponible sur l'appli Mega Drive si jamais vous voulez jeter un œil. Par contre, je préviens.
Ou si vous voulez perdre un œil.
Si vous voulez perdre un œil. Par contre, je préviens, effectivement, il est pas très bien à maîtriser. J'ai la version originale, c'est pas idéal. Par contre, il a un système de magie intéressant.
Le jeu suivant que moi j'ai sur la liste, c'est Oceanhorn, qui est un... Là, en l'occurrence, ça ressemble vraiment à un Zelda, et c'est plus ou moins assumé. C'est un jeu dans lequel on est. Ça, c'est en fait une espèce de mélange entre Wind Waker et on va dire un Zelda 3. C'est-à-dire, l'idée, c'est que tu te balades sur un bateau, puis tu chopes une île, puis sur l'île, parfois, il y a un donjon, puis tu vas rentrer dans le donjon, tu chopes un objet, tu bats un boss. Ça ressemble énormément à, oui, Zelda 3, mais sur l'eau.
Donc Wind Waker, quoi.
Donc, Wind Waker. Wind Waker, mais avec quand même plus ou moins... Alors, t'as une vue, on va dire, de derrière quand t'es sur le bateau, et t'as plutôt une vue du dessus quand t'es sur les îles. Donc t'as un mélange de genres un peu bizarre. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que moi, personnellement, je m'y suis ennuyé assez vite, parce que finalement, c'est un petit peu toujours la même chose. T'as pas de twist de donjon, t'as pas de choses comme ça qui font que tu restes accroché. Voilà. Et le jeu est assez... Il a l'avantage d'être assez court. Donc c'est vrai qu'on se prend, entre guillemets, pas trop la tête. C'est un jeu détente, pourquoi pas, mais pas un truc sur lequel je reviendrai avec plaisir, par exemple. C'est pas... Voilà. C'est pas... J'ai pas trouvé
voilà.
ça.
Voilà, c'était une petite anecdote, quoi.
C'est un truc un peu anecdotique, mais là, on a vraiment des développeurs qui se sont clairement inspirés de Wind Waker et qui ont clairement dit, bon, on va essayer de voir si on peut faire un truc. Voilà.
Du coup, le jeu est en 3D, et du coup, le jeu a des graphismes en 3D.
Oui, oui.
Du coup, est-ce qu'en vue du dessus, ils ont les modèles 3D à 60 degrés comme sur Happy Feet Wars?
J'espère que oui, parce que je kiffe ce gimmick de
oui,
sur aplati comme ça. Je ne crois pas que ce soit le cas. Il va falloir qu'on parle un petit peu de Darksiders 1 et 2.
Surtout parce que du 1 aussi... en vrai, non Surtout du 1, non?
Bah non, le 2, plus que le 1 en fait.
Ah, non, je crois que le 1, ça ressemble déjà beaucoup à Zelda. Hein.
Alors le 1, ça ressemble énormément à Zelda. Donc, on rappelle, Darksiders, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, Mort, Défaite, Macron et Barnier.
Qui... Incroyable, incroyable.
Elle est partie toute seule, celle-là. Qui sont... Enfin, l'histoire est un peu compliquée. Donc, on va pas raconter l'histoire, parce que sinon, on va vomir.
Ouais, c'est la fin du monde, c'est le bordel, let's go.
Ah, c'est une histoire de comics.
C'est ça. Mais c'est écrit par un auteur de comics, d'ailleurs.
Bah oui, c'est pour ça.
Oui, oui, Darksider, oui, oui. Voilà, je vois exactement de quoi vous parlez maintenant. J'avais pas le jeu en tête.
T'avais pas le jeu en tête. Donc, Darksiders 3, par exemple, est un Dark Souls-like. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout le même style de jeu. Darksiders 1 et 2 sont des Zelda-like. Pareil, c'est plus ou moins assumé. Donc, il y a dans Darksiders 1 et 2... Alors, c'est là où la différence est un petit peu subtile. Dans Darksiders 1, il y a un overworld, mais qui finalement ne sert pas à grand-chose. Il sert vraiment à relier les donjons entre eux, mais il est finalement très linéaire.
Ouais, c'est un hub.
D'exploration, c'est une espèce de gros hub. Un gros hub qui, en fait, ressemble plus à une espèce de grand couloir.
Donc, en fait, c'est une plaque tournante de train.
Exactement. Non, mais exactement.
C'est exactement ça. C'est une très bonne image. Et tu as des donjons qui ressemblent énormément à du Zelda, dans lequel, généralement, tu vas aller récupérer une capacité, et tu as des donjons qui sont plutôt très bien foutus, dans Darksiders 1 notamment, mais dans le 2 aussi. Tu as systématiquement un boss qu'il va falloir battre avec cet objet, donc de ce point de vue-là, on a quand même énormément de ressemblances avec ce que fait Zelda. La seule différence très notable, je trouve, c'est que les combats sont bien plus intéressants, puisque là, c'est vraiment du gros beat'em all qui tâche. Mm-hmm. Et on essaye en tout cas de faire du gros beat'em all qui tâche. Petite parenthèse, Darksiders 2 ressemble beaucoup plus à un Zelda que Darksiders 1, dans le sens où l'Overworld est un vrai Overworld. C'est-à-dire, c'est pas juste une plaque tournante de train.
Sachant que quand tu fais une plaque tournante de train, encore plus, alors qu'il y a un Zelda qui a un train, faut le faire.
Allez, bâtard. Genre, les mecs se sont dit, ah merde, ils ont fait Spirit Tracks, on est grillés, faut qu'on fasse un vrai Overworld.
On est en train de découvrir en direct que finalement, le plus gros lobbyiste de Spirit Tracks, c'est Renard.
Ah, le bâtard.
Ah, mais toujours.
C'est un peu
jamais... vrai. C'est jamais été. J'ai jamais caché ça, hein.
Non, mais
jouer
voilà,
à Spirit Tracks.
C'est ça. Et il a mis, je rappelle, un jingle de Mega Drive en direct. Non, mais voilà.
Hein. Non, mais ça, c'était accidentel. Ça, c'était accidentel.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Je jure.
Mais bref, donc Darksiders 2 continue dans la veine de Darksiders 1 avec du loot en plus, des combats qui sont toujours intéressants. Ce qui est intéressant dans le 2 par rapport au 1, c'est que le 1, on avait le personnage de Mort qui avait tendance à être un peu
War, le premier.
C'était ouais, Guerre ça. Dans le premier.
Guerre, pardon. Excusez-moi.
C'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Hein.
C'est ça. Voilà. Macron et Barnier, donc la blague au cas où elle serait pas passée. Guerre avait tendance à être plutôt un gros lourdeau. Donc,
Il avait quelques capacités pour aller grimper, sauter, machin, mais pas tant que ça. Mort est bien plus souple, en fait. Il est moins bon au combat, mais il est bien plus agile, bien plus souple. Et là, donc, ça ressemble un petit peu plus à Prince of Persia, les Prince of Persia 3D sur la partie grimpette. Et c'est là qu'il y a un ou deux donjons dans Darksiders 2 qui sont vraiment dignes d'un Zelda, où t'as vraiment des passages super intéressants, où t'as vraiment des donjons qui bouclent sur eux-mêmes et qui sont où tu te retrouves dans la salle principale qui fait ah mais en fait je suis repassé là, waouh, maintenant je peux aller là, et ça marche super bien. Donc moi je peux recommander Darksiders 2, notamment le donjon de la lave qui est je crois le 2 ou 3ème, en plus c'est un donjon assez qui arrive assez tôt dans le jeu et qui est vraiment bien sympa. Et le tout dernier donjon aussi retourne bien le cerveau parce que tu commences à avoir des capacités vraiment originales.
Cool.
Voilà, donc Darksiders 1 et 2, pareil, c'est disponible sur Switch en plus. Les 4 Darksiders sont disponibles sur Switch, donc vous pouvez en profiter. Et vraiment, c'est pas très cher. Darksiders 1, je peux difficilement vous le recommander parce que, encore une fois, il y a des choses intéressantes dedans, mais je trouve que l'Overworld n'est pas assez développé. Et je trouve
c'est assez court.
C'est court, donc c'est un avantage, entre guillemets. Il y a des choses intéressantes à en tirer, mais je trouve que les donjons sont pas fous. Enfin, voilà, l'aspect beat'em all est réussi, le reste est sympathique sans plus. Darksiders 2, il y a vraiment un twist. Et vraiment un twist sympa.
Ouais, Darksiders 1, c'est vraiment... Dites-vous, c'est quoi, pour vous, c'est quoi Zelda avec un côté edgy, et c'est vraiment ça, en fait. Et c'était cool à faire dans son jeu à l'époque, par contre.
Oui, mais c'est vrai que c'est ça. Peut-être que c'est ça, ça a peut-être pas très bien vieilli. Je trouve que le 2 a beaucoup mieux vieilli.
Moi, le 2 m'était tombé des mains, mais... un passage que je trouvais nul à chier.
Il y a quelques passages pas terribles dans le 2. Mais encore une fois, il y a au moins un donjon, qui est le donjon de Lala, je ne sais plus de son nom, qui vaut vraiment la peine d'être joué. Et il y a quelques boss qui sont quand même assez bien pensés et bien foutus aussi.
Est-ce qu'il y en a un qui a un clou, comme dans Ocarina of Time?
Je ne crois pas.
Ah, quel dommage. Volvagia,
est-ce qu'il y a une bière
encore.
Est-ce qu'il y a une bière?
Est-ce qu'il y a une bière dans Darksiders?
Étant donné la gueule du mec, je pense qu'il y a de nombreuses bières. Parce que je rappelle, on est dans le monde des... Je crois que c'est le monde des fondateurs, un truc comme ça. Donc c'est les mecs qui...
qui ont fondé.
Qui ont fondé, donc c'est tous des nains. Mais tu sais, c'est des nains, des vrais nains de RPG, quoi. C'est-à-dire que la différence entre un homme et une femme, c'est que la barbe est pas de la même taille.
Ouais, donc il y aura clairement de la bière. Hein.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors,
et si c'est pas de la bière, c'est que c'est plus fort.
Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, Yuva, qui nous dit que le 2 l'avait vraiment marqué. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment un très bon jeu.
Bon, bah je la rajoute à la liste. Hein.
Voilà, vous pouvez la rajouter à la liste. Antix, tu voulais nous parler de Minit.
Yes, Minit qui est un petit jeu indé, je pense qu'il doit avoir 4-5 ans maintenant, qui est très minimaliste, hein, de mémoire c'est en noir et blanc, et le concept est extrêmement simple, donc ça joue à la Zelda à l'ancienne vue de dessus en 2D, et le but c'est qu'on a 60 secondes pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans le monde avant de mourir.
Oh la gueule du speedrun. Ouais.
Voilà, et alors vous vous dire, mais c'est pas possible de finir ce jeu, comme dans Majora's Mask. À chaque reset, on conserve une partie de sa progression, donc le but en fait en 60 secondes, c'est de réussir à remplir le prochain objectif, d'ouvrir un raccourci, de débloquer une nouvelle zone. C'est un jeu qui est pas très long, qui est très très chouette.
J'espère bien, parce que bon, s'il était un peu plus long, ce serait Majora's Mask version hardcore.
C'est ça, Majora's Mask, mais il n'y a qu'une minute pour chaque journée.
Je crois qu'il n'y a même pas de donjon dans le jeu, en fait, c'est vraiment, il n'y a qu'un overworld, mais du coup, tu as des capacités à récupérer, des trucs à échanger, bref. C'était vraiment très très chouette. Et il y a un côté, 60 secondes, ça a l'air court, en fait, c'est pas si frénétique que ça. Ça se fait vraiment tranquille, faut pas se dire ça va être dur, c'est vraiment pensé pour, et c'est une expérience qui est finalement assez tranquille.
On avait un autre jeu qui était 3D.GamesHeroes.
Ouais,
qui,
c'était l'indispensable jeu From Software de cette sélection.
Ah, le bâtard. Alors, seulement éditeur, seulement au Japon, je précise.
Voilà. Qui, du coup, est vraiment un jeu en voxel. Donc, c'est les pixels, mais avec du volume. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'esthétique qui avait fait un peu parler de lui, parce que bah, c'était le Zelda de la PS3.
Et c'était vraiment un Zelda, en l'occurrence. Là, c'est vraiment pareil.
Vraiment, c'était Zelda vu du dessus. Le gimmick, c'est qu'en fait, je sais plus pour... Alors, j'ai pas trop joué au jeu... on voit que c'est quand même très Zelda à l'ancienne, hein. Zelda 1 pour le coup.
Zelda, moi j'aurais dit Zelda 3.
Ah, c'est entre ces deux-là. Et il y avait un gimmick avec l'épée du héros qui pouvait être un détail démentiel notamment. Mais ça fait partie de ces jeux qui sont restés bloqués sur PS3, qu'on ne reverra probablement jamais, Donc ils sont bêtes, ils sont pas sur PC, ils sont pas sur une nouvelle console, et ils sont sur une console qui est quand même un peu chiante à émuler.
Oui, malheureusement, d'un point de vue conservation, il va être un peu compliqué. Je crois qu'il s'est pas tellement bien vendu en physique aussi,
C'est un petit jeu de niche, quoi.
Oui, voilà, mais je sais que pendant un moment, il a été très recherché par les collectionneurs PS3, parce que justement, il était jamais ressorti sur le... sur le PSN en dématérialisé, il était plus disponible, pas compatible PS4, pas compatible PS5, forcément il est jamais ressorti, et du coup la version boîte avait atteint des sommes pas folles, mais enfin des sommes élevées pour un jeu PS3, et je sais pas ce qui s'est passé, mais finalement le truc est un peu redescendu. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont rendu compte que c'était pas si rare que ça.
Ah, j'espère bien, parce que j'aimerais bien l'ajouter à ma collection maintenant.
Bah, je sais pas si ça vaut le coup comme jeu. Je sais que ça avait fait un petit peu de bruit effectivement à l'époque. Mais...
je me souviens que ça avait eu des bonnes notes.
Ça a un peu buzzé.
J'avais un petit dernier jeu à rajouter.
Voilà. Dernier jeu de la sélection.
Avant que tu passes au dernier, justement, très rapidement.
Ah, le bâtard.
Parce que en fait, en cherchant un autre jeu, je m'en suis souvenu. Hyper Light Drifter.
Wow.
Bien vu.
Qui est un peu le même, enfin qui est un jeu un peu 2D à l'ancienne, alors un peu plus exigeant sur ses combats que Zelda, mais qui du coup a vraiment cette notion de traverser le monde et d'avoir un vrai sens de l'orientation, réussir à naviguer dans le monde, comprendre les énigmes pour pouvoir résoudre les, en fait faut aller aux quatre coins de la carte pour débloquer un truc à chaque fois, et en fait dans chaque zone faut réussir à naviguer. C'est vraiment une énigme d'orientation comme dans un donjon de Zelda.
D'accord, donc finalement là c'est l'Overworld qui est un donjon. Enfin l'Overworld qui est quatre petits donjons.
Ouais, en fait, je sais plus s'ils sont reliés, le jeu je l'ai fait quand même il y a quelques années. Par contre c'est un jeu qui est plus exigeant que Zelda sur ses combats hein, pour le coup. Mais okay. Si vous voulez un Zelda un peu exigeant en termes de difficulté d'énigme et de combat, c'est une bonne pioche, un jeu qui est magnifique aussi. Hein. Visuellement c'est la très très belle 2D.
Effectivement, on avait un tout petit dernier jeu, alors je suis étonné et pas étonné à la fois, il y avait qui nous a été proposé, c'était Beyond Good and Evil, qui effectivement
bien joué.
Reprend des éléments de Zelda, t'as un overworld qui est très développé, par exemple.
L'évolution de l'héroïne, ça se fait avec des capacités, une jauge de cœur qui augmente.
C'est ça, il me semble que, par contre, côté donjon combat, c'est un petit peu plus limité, me semble-t-il.
Oui, mais c'est cette volonté de faire un jeu d'action-aventure à la Zelda. Mais plutôt Zelda 3D.
Oui, effectivement, ça ressemble plus à ça. Donc effectivement, tu n'as pas Epona, tu as un Overcraft.
Tu n'as pas Navi, tu as un port avec toi.
Oui, bon. Donc c'est pas de l'heroic fantasy, c'est de la science fantasy. Voilà.
Mais c'est le meilleur compagnon dans Zelda ever. Hein.
C'est ça, oui, parce qu'effectivement, c'est là que je me dis que j'aimerais bien que dans le prochain Zelda, il y ait un cochon qui vole qui nous accompagne. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire.
Attends, mais le cochon, c'est le méchant d'habitude dans Zelda.
Ben voilà, donc tout va bien. Tu miniaturises Ganon et il te sert de compagnon pour aller sauver quelqu'un d'autre.
Oh putain, voilà. Chibi Ganon.
Mais voilà. les gars, Nintendo, si vous voulez nous reprendre l'idée, on vous la donne avec... voilà.
J'ai envie de dire, on subit quand même vachement Ganon. Hein. Combien de fois il a été ressuscité, le cochon?
Un bon paquet de fois.
Voilà quoi, on parce le tue et voilà.
Mais non, mais les mecs, c'est... à chaque fois qu'ils le scellent, ils le scellent dans une fondue savoyarde, quoi. Donc forcément, il finit par sortir.
Non. Parfois, il le scelle et là, effectivement, il sort. Mais parfois, il meurt. Et c'est juste qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de le ressusciter. Et du coup, on doit le retuer.
Putain. Voilà. Tout ça parce que c'est les mecs qui savent pas se tenir.
Il n'y a que dans Zelda 2 où on arrive à éviter qu'il ressuscite.
Oui, alors non, dans Zelda 2, l'objectif, c'est d'éviter sa résurrection. Mais quand t'as un Game Over, il ressuscite.
Oui, quand t'as un Game Over.
Immédiatement, hein, je veux dire, tu crèves, il est là genre, haha, c'est bon.
En fait, de toute façon, les jeux où il n'y a pas Ganon, ça peut se compter sur le doigt d'une main. Hein.
Link's Awakening.
Link's
Awakening. Majora's Mask.
Majora's Mask.
Spirit Tracks, Phantom Hourglass. Triforce Heroes, mais nous n'en parlons pas.
Ah oui, celui-là, on a considéré que c'était pas vraiment un jeu.
Voilà.
On est à 5 pour l'instant.
Ça se compte sur les doigts d'une main, mais.
Skyward Sword,
techniquement.
Et bien évidemment, Minish Cap et Force World Adventure.
Ah le bâtard.
Perdu pour
Force
World Adventure.
Non, pardon, Force World.
Ouais,
Force
voilà.
Sword tout court. Voilà.
Ok, Force World. Okay.
Parce voilà, que Force World Adventure, c'est celui où justement il revient.
Il m'a fallu une deuxième main.
Il a fallu une deuxième main, donc tu as perdu.
Merde. Oui, les niveaux.
Oui.
C'est français, mon bon monsieur.
C'est français, oui. Mais c'est très bien, en plus, Beyond Good and Evil. Il y a une version remaster qui est sortie il y a peu de temps.
Oui, 20e anniversaire.
voilà, que
dont on attend le deux.
Bon, oui, bref. C'est ça, 20 ans qu'on attend le second.
Bah là, c'est foutu, les gars.
Il a battu Duke Forever. Hein.
Oui, effectivement. Petit du meilleur Vaporware.
C'est vraiment un jeu qui est chouette. Alors, moi, je l'avais commencé sur PS3, je l'ai pas pu le finir. Pour des raisons de perte de sauvegarde. Mais très très chouette ambiance. Pour le coup, c'est. Je vois vraiment pas d'équivalent Beyond Good and Evil en termes de jeux auxquels j'aurais pu jouer. Qui ont cette espèce d'ambiance, d'univers, enfin, de. En termes d'univers, d'ambiance et de logique, en fait. C'est. Même pour un Zelda, un jeu qui s'inspire de Zelda, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure description qu'on peut avoir de ça, ça fait quand même son truc derrière et ça veut faire ses propres idées.
Oui, je suis assez d'accord, en fait. C'est.
Alors, par rapport à Darksiders ou à Okami, ouais. Tu sens que Zelda est là quelque part. Mais Beyond Good and Evil, il se dit, bah moi je vais faire mes trucs.
C'est ça. Non mais c'est exactement ça. Tu sens dans un Okami, dans un Darksiders, dans un Oceanhorn, on a parlé de quelques autres, tu sens l'ombre de Zelda derrière, alors que là tu sens que le jeu a envie de reprendre l'idée générale, mais avec son propre twist. Et ça marche assez bien, en plus. Donc vraiment, faut pas se priver. Bref, on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà très tard. Chaque fois qu'on parle de Zelda, on y passe des heures.
Ce qui comme il faudrait, évidemment.
Voilà.
Venir d'une émission fleuve de 2 heures sur Majora's Mask.
Tout à fait, mais qui est très bien. Je rappelle que ça fait partie des émissions les plus téléchargées du podcast, hein. Même encore aujourd'hui.
Il faudra que je l'écoute.
Voilà, le mec, il faut qu'il joue au jeu, il faut qu'il écoute le podcast, et en plus il aime la Mega Drive.
J'espère que t'as du temps.
C'est pas que j'aime la Mega Drive, c'est plus que je l'apprécie. Voilà.
Un bâtard.
Je préfère en tant qu'ami, c'est ça, ouais, je comprends.
Je suis désolé, hein. Je me permets quand même cette remarque, hein. La Mega Drive, c'est la Mega Drive ou le Dojo, hein. Y a pas de. Voilà.
Eh ben, si j'ai à choisir, je prendrai le Dojo. Voilà.
Merci, voilà. Voilà.
Voilà, faut pas déconner non plus.
C'est ça, il y a un moment, il y a des limites à tout. Bref, donc nous, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines. Je ne sais pas quel sera le thème de l'émission, ça dépendra de ce qui est sorti entre deux. J'ai un thème en tête, mais je vais pas en parler maintenant. Je vais en parler avec mes petits camarades en off pour vérifier, voir si je peux arriver à les accrocher un petit peu.
Mais si c'est qu'est-ce qu'un Paper Mario, on est dans la merde.
Ah oui, non, là, vous en avez parlé. Mais c'est pas ça. Je crois que le nouveau RPG Mario & Luigi, c'est pas avant 3 semaines, si je dis pas de bêtises, donc voilà.
D'ailleurs, fun fact, il tourne sur l'Unreal Engine, ce que je trouve marrant, vu que Nintendo a ses propres moteurs de jeu d'habitude.
Ouais, mais là, ils avaient besoin de faire un truc qui marche. Sérieux. Bon,
il a osé.
C'est fait. Bref, en tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao.
Bye bye.